Deux colonnes à la une. Deux colonnes à la une, les francs-maçons sur Radio DTC.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Deux colonnes à la une, qui est votre émission préférée de web radio consacrée à la franc-maçonnerie sur Radio DTC. Jean-Laurent au micro et Eric, le boss, à la direction d'orchestre derrière ses consoles. Nous traiterons ce soir d'un sujet que l'on pense souvent connaître et que l'on ne connaît pas si bien que ça, à savoir les interactions qu'il peut y avoir entre communards, anarchistes et francs-maçons. Et d'ailleurs, le titre de l'émission de ce soir est justement « Communards, anarchistes et francs-maçons ». Le Grand Orient de France célèbre depuis 1971, je crois le 1er mai, la Commune de Paris, au cimetière du Père-Lachaise et plus précisément encore au mur des Fédérés, là où furent passés par les armes des Versaillais les derniers communards combattants au dernier jour de ce qui fut appelé plus tard la Semaine Sanglante. Mais quel fut donc le rôle joué par les francs-maçons lors de la Commune et quelle fut l'opinion de leurs obédiences respectives sur cette action ? Pour parler de tout cela et de bien d'autres choses, j'ai invité deux grands spécialistes du sujet. Tout d'abord, André Combes, historien, spécialiste reconnu de la franc-maçonnerie. Il a publié de très nombreux ouvrages, dont beaucoup font autorité, il faut le dire. Je ne vais en citer que quelques-uns, il me pardonnera. Les trois siècles de la franc-maçonnerie française, le Grand Orient de France au XIXe siècle, ou encore la franc-maçonnerie sous l'occupation. André Combes est membre du Grand Orient de France. Il vient de publier un très excellent livre qui s'appelle « La Commune de Paris, mars-juin 1871, la franc-maçonnerie déchirée », qui a été l'une des sources principales d'inspiration pour notre émission de ce soir. Également avec nous, Christophe Biteau, qui est professeur et historien, et qui, lui, est membre de la Grande Loge de France. Il a été le vénérable maître, je crois, de la loge Les Trinitaires, numéro 3. Et je le précise, parce que c'est important pour la suite de notre débat aujourd'hui, puisqu'il est également l'auteur d'une magistrale biographie d'Elimet, qui est malheureusement aujourd'hui indisponible, et je le regrette vivement, intitulée « Elimet, communard et franc-maçon ». Et Elimet fut également le vénérable pendant plus de 10 ans, je crois, de la loge Les Trinitaires numéro 3. Il fut également, de longues années, membre du Conseil fédéral de la Grande Loge de France avec Gustave Mesureur et bien d'autres. C'est Elimet qui va initier Eugène Potier, nous y reviendrons longuement lors de cette émission, au sein de la loge Les Égalitaires de New York, qui était composée de communards en exil. Christophe Biteau vient de publier un autre excellent ouvrage aux éditions Théolib, les éditions du protestantisme libéral dirigées par Pierre-Yves Ruff, intitulé « L'unique et l'initié, franc-maçonnerie et anarchie », qui est vraiment un livre passionnant et dont je vous recommande la lecture. Je le chroniquerai bientôt également sur mon blog. Il y aura de nombreuses surprises, car lors des événements de la Commune de Paris de 1871, qui est célébré chaque année, devant le mur de Fédérés, tout ne s'est pas passé hier, comme nous le penserions aujourd'hui. Nous retrouverons évidemment nos chroniqueurs et chroniqueuses favoris. Marie-Françoise Blanchet, que nous aurons au téléphone tout à l'heure. Jean-Michel Dardour, qui sera parmi nous, qui est en train d'arriver. Laurent Kulferman, qui est déjà là. Ouais.
Bonsoir Jean-Laurent.
Hélène Cuny, qui nous donnerait sa chronique d'actualité maçonnique. Bépé, qui est là avec nous et qui fera les conclusions et les flèches assassines lors de l'émission. Et nous avons un absent.
D'ailleurs, je vais en faire une.
Oh non, pas encore.
Je rappelle que nos propos n'engagent que nous et pas nos obédiences.
Mais je vais...
Voilà, j'ai bien
je
dit.
Je rappelle à la fin.
Oui. Il vaut mieux pour moi, je pense.
C'est Christophe Vitzo qui va.
De la Grande Loge de France. Ouais.
Voilà.
Et nous avons un absent, mais un absent qui nous écoute parce qu'il est on the road et il nous a adressé un message juste avant l'émission. Philippe Benhamou, l'auteur de La franc-maçonnerie pour les nuls notamment, et de Madame Iramabi, la concierge de la rue des Trois Frères, dont nous avons parlé déjà la fois dernière et que je vous recommande également vivement. Donc nous saluons Philippe qui est dans sa voiture et qui sera avec nous lors de la prochaine émission. Bien évidemment, comme vous l'a rappelé BP, tous les intervenants qui s'expriment ici à Deux Colonnes à la Une le font en leur nom personnel et n'engagent ni leur loge ni leurs obédiences. Et nous, vous pourrez, je crois, aujourd'hui, si Eric me le confirme d'un regard, les auditrices et les auditeurs pourront nous appeler au 09 53 08 00 99. Je répète, 09 53 08 00 99. Si jamais ils ou elles ont des questions
à poser. Rappel, maman, s'il te plaît, ne donne pas ton nom quand tu appelles, et Madame Jean-Laurent aussi.
Non. Et nous avons l'habitude, c'est vrai, de commencer par la chronique de Marie-Françoise Blanchet. Mais Marie-Françoise n'est pas présente avec nous. Nous l'appellerons, c'est convenu, nous l'appellerons tout à l'heure au téléphone. Et donc, nous allons commencer tout de suite l'émission par la chronique de Laurent Kupferman qui est avec nous. Et je lui cède tout de suite la parole, Laurent Kupferman.
Oui, je vais vous parler, Jean-Laurent, et vous tous et toutes, de Charles Amouroux. Charles Amouroux est né le 24 décembre 1843 à Chalabre, d'un père apprêteur de draps et d'une mère couturière. La famille Amouroux quitte Chalabre dès la naissance de Charles et s'installe à Paris, dans le 4e arrondissement. Alors, vous comprenez qu'en 1848, lorsqu'éclate la Révolution, il n'a que 5 ans, mais pour autant, il est quand même sensibilisé par l'événement et d'ailleurs, il est sensibilisé aussi à la misère de son milieu d'origine. À 19 ans, il s'installe à Nantes et exerce le métier d'ouvrier chapelier. C'est le moment où il fréquente les milieux activistes de la gauche ouvrière et se rapproche de l'opposition au régime impérial, ce qui lui vaut d'être identifié puis régulièrement recherché et arrêté par la police. Il se réfugie dès 1864 dans la clandestinité pour réapparaître un an plus tard à Paris. De plus en plus proche des milieux activistes de l'extrême gauche, brillant orateur, il s'engage dans la défense des laissés pour compte, de plus en plus nombreux depuis que Napoléon III favorise une politique économique ultralibérale. Il est juste de dire que la France s'enrichit, mais il est aussi vrai de dire que les plus fragiles économiquement ne sont pas protégés à l'époque en cas d'accident de la vie. Amouroux est de plus en plus gagné par les idées socialistes. Un rapport de police le décrit d'ailleurs comme un ardent républicain, orateur assidu des réunions publiques, libre penseur, excitant les ouvriers contre les patrons. Il serait, ajoute le rapport, actif dans le parti révolutionnaire extrême et on le dit même en communauté d'idées avec le parti de Blanqui-Tridon. L'horreur absolue pour le régime impérial qui préfère les bonnes affaires au désordre social. Amouroux fait dès lors l'objet de plus de 10 condamnations et il connaît la prison et il lui faut attendre la tardive évolution de l'empire autoritaire vers un empire libéral en 1869 pour qu'il retrouve la liberté. Une fois libre, il se réfugie en Belgique avant de revenir quelques mois plus tard après la chute du régime impérial le 4 septembre 1870. L'Empire est en effet en guerre contre la Prusse depuis le mois de juillet et dans la nuit du 3 au 4 septembre, les Parisiens apprennent que l'empereur Napoléon III était prisonnier à Sedan. L'Empire, qui paraissait raffermi par son triomphe aux élections de 1869, s'effondre en une seule nuit. L'impératrice Eugénie, à qui Napoléon III avait confié la régence, tente en vain de convaincre l'armée de maintenir le régime. Humilié par Trochu, commandant militaire de Paris, Eugénie est d'abord confiné aux Tuileries, puis arrive à fuir jusqu'en Angleterre. À 1h du matin, le corps législatif est réuni. La foule qui avait manifesté toute la nuit envahit le palais Bourbon et y passe la nuit. Le lendemain, à 14h30, Gambetta et Favre réussissent à entraîner les manifestants à l'hôtel de ville d'où ils proclament la République. C'est ce même jour que Amouroux rentre sur Paris et s'engage dans l'opposition au gouvernement de la Défense nationale. Le 19 septembre 1870, les Prussiens font le siège de Paris. Le 7 octobre 1870, Gambetta quitte Paris en ballon pour porter au gouvernement en exil le message et le désir de résistance des Parisiens. Le 27 octobre, Bazaine rend les armes sans combattre à Metz. Le 28 janvier, le gouvernement capitule, mais Paris veut résister. Des élections se tiennent le 8 février après une campagne de 7 jours, ce qui est un fait unique dans notre histoire. Thiers est élu chef du pouvoir exécutif le 17 février 1871 par l'Assemblée nationale réunie à Bordeaux et un gouvernement est constitué. Thiers conclut avec Bismarck le traité préliminaire de paix le 26 février. Amouroux, qui a été initié par la loge Les Amis de la Tolérance, se porte candidat à ces élections, mais sans succès. Paris, l'Alsace et la Lorraine sont occupés. Cela provoque une vague d'indignation. La capitale se soulève contre la capitulation, mais aussi contre les conditions de vie qui sont devenues insupportables suite au blocus. On crie « Ferry, famine !» et le 18 mars marque le début de la Commune. Bien sûr, l'insurrection vient de la dégradation de la qualité de la vie, mais un autre des objectifs, un autre des motifs, c'est bien d'abattre le gouvernement de Versailles et de le remplacer par une constituante qui décréterait la continuation de la guerre. Le 26 mars 1871, le comité central de la garde nationale, détenant le pouvoir dans la capitale, invite les Parisiens à élire leurs représentants. Amouroux est élu dans le 4e arrondissement de Paris par près de 50% des voix. Il fait partie donc du conseil des 90 membres élus qui s'installent à l'hôtel de ville. Désigné comme secrétaire de la commune, il rédige les comptes rendus pour le journal officiel et il vote des mesures. Alors le Figaro l'accuse d'avoir voté les mesures les plus violentes. Il est accusé d'avoir poussé à l'exécution des otages. Il est accusé d'avoir poussé les pétroleuses à incendier. Bon, ce qui est avéré, ce qui est certain, c'est qu'il est un des francs-maçons qui se prononce en mai pour le comité de salut public. Charles Amouroux fera aussi partie, dès avril, de la commission des relations extérieures. Alors, c'est pas le ministère des Affaires étrangères, hein, c'est les relations extérieures à la Commune de Paris. Il tentera d'ailleurs, sans succès, de provoquer des soulèvements dans d'autres villes, puis il sera arrêté et fait prisonnier dans le 16e arrondissement, alors qu'il est sous une fausse identité. C'est le début de la semaine sanglante. Les quartiers capitulent les uns après les autres, malgré les barricades dressées par la population. Les pertes sont de 25 000 hommes du côté des fédérés, parmi lesquels, évidemment, on compte des femmes et des enfants, et environ 1400 pour les Versaillais. Le 28 mai, la Commune de Paris est écrasée dans le sang. En plus des victimes s'ajoutent les incendies, les fameux incendies des pétroleuses, le palais des Tuileries, le palais de justice, le palais royal et l'hôtel de ville. Le 3 septembre, à l'ouverture de son procès au Conseil de guerre, Amouroux tente de convaincre les juges du bien fondé de la Commune. Le ministère public, lui, cherche à faire apparaître son rôle particulier. Amouroux se défend avec tact et mesure, mettant au défi le procureur général de prouver qu'il était responsable de l'agitation à Paris. Malgré sa bonne défense, celui qui a été 14 fois jugé sous l'Empire et proscrit est à nouveau condamné à la déportation en Calédonie. Beaucoup de communards sont d'ailleurs déportés en Calédonie. Parmi ces déportés, il y a des personnages célèbres. On connaît évidemment la future sœur Louise Michel. Mais Amouroux, lors de sa déportation, connaît vraiment 3 années de souffrance. Il est employé aux ponts et chaussées, où il laisse la réputation d'un travailleur infatigable. Mais ses compagnons d'infortune lui reprochent de couvrir de paille les gourbis des surveillants et de faire leur jardin, de les servir à table. Donc lorsque il a une réputation un peu pas d'être extrêmement résistant. Lorsque l'insurrection kanak éclate en 1878, Amouroux se range aux côtés des Français contre les kanaks révoltés. Cet engagement va être évidemment diversement apprécié, à gauche notamment. Alors pour moi, il n'y a rien de racial dans ce choix fait par Amouroux. Il est probablement persuadé, comme de nombreux républicains, que Victor Hugo, par exemple, que le projet colonial est porteur des valeurs de la civilisation moderne. Quoi qu'il en soit, le gouvernement, pour témoigner sa reconnaissance, va commuer sa peine en 10 ans de bannissement, puis le gracie en 1880. De retour en France, début 1880, Amouroux rejoint Paris et reprend du service. Il a mûri dans ses engagements politiques et se dit adversaire de l'anarchie, du collectivisme et de la lutte des classes. Il est toujours un infatigable militant de la cause ouvrière, mais il préfère prôner l'esprit de la solidarité et affirmer le triomphe de la République. Amouroux est à ce moment-là membre de la loge La Ruche Libre. Amouroux critique dès lors le programme du Parti ouvrier qui est rempli, je le cite, de mots ronflants. Il ajoute « J'ai fait 9 ans de bagne pour l'avoir soutenu en 1871. Vous vous dites communiste, poursuit-il, moi je ne le suis pas. Vous voulez former une classe à part et supprimer la bourgeoisie, moi je veux l'union. Vous voulez supprimer le bourgeois, moi je veux, par mes efforts, élever le prolétaire au rang de la bourgeoisie au lieu de faire descendre le bourgeois au rang des prolétaires, et je trouve que c'est préférable. Vous voulez créer un quatrième état, c'est-à-dire un état dans l'état, mais ce serait la décadence de la France et la destruction de la République. C'est pour toutes ces raisons que je vous ai toujours combattu et que je vous combattrai toujours. » À la même époque, il dit aussi sa priorité pour la défense de la République. Mais il ne renonce pas pour autant à son idéal de jeunesse. Lorsqu'on lui demande sous quel drapeau il se rangerait si la République était menacée, il répond « Si la République était menacée par les monarchistes et que le drapeau tricolore soit là pour la défendre, je me rangerais sous ses plis. Mais si, comme en 1871, elle était menacée par ce même drapeau, je me rangerais sous le drapeau rouge. » En mai 1884, il est réélu au premier tour à Paris et devient un des animateurs du groupe autonomiste. À ce titre, il réclame la mise en œuvre d'un vaste programme de réformes républicaines où figurent la suppression du Sénat, la réforme de l'impôt, la séparation de l'Église et de l'État et l'élection de la magistrature en 1884. En mars 1885, Amouroux, qui souffre déjà d'une terrible maladie, est de nouveau sollicité pour se présenter aux élections législatives et il est finalement élu et siège au Palais Bourbon aux côtés de l'extrême gauche. Dans son texte de remerciement aux électeurs paru dans Le Radical, il n'est pas question de la Commune de 1871, mais de la Révolution française antimonarchiste, qu'il termine par un vibrant « Vive la République démocratique et sociale ». Défenseur du projet universaliste et solidariste, hostile à l'anarchie et à la lutte des classes, au collectivisme, Charles Amouroux est en définitive un des archétypes du républicanisme. La France est pourtant un pays dans lequel il faut être d'un côté ou de l'autre. Charles Amouroux emprunte une voie singulière, prenant le risque de déplaire aux maximalistes. Pourtant, grâce à son courage, Charles Amouroux a su plaire aux hommes de bonne volonté. Il décède le 24 mai 1885, 2 jours après Victor Hugo. Lors de ses obsèques, des milliers de Parisiens se pressent pour lui rendre un dernier hommage. Son enterrement, raconte le commissaire de police en charge de la surveillance, se déroule du début à la fin dans le plus grand ordre. On ne signale aucun incident lorsque la troupe rend les honneurs militaires aux députés défunts. Et il y a près de 6 à 7 000 personnes, qui est quand même considérable. Lorsque le convoi quitte la maison mortuaire, il est suivi par une 30aine de députés qui ont tous leurs insignes et tous les conseillers municipaux, 5 corporations avec leurs bannières, plusieurs loges maçonniques, dont celle des droits de l'homme. Il y a aussi des représentants des comités radicaux, de l'Alliance socialiste républicaine, de la libre pensée et une foule de manifestants, le tout sous une brigade de gardiens de la paix qui accompagne les choses pacifiquement. Ainsi fut la vie de Charles Amouroux, celle d'un noble capable de rassembler ce que l'on pensait irréconciliable. On cria « Vive la Commune » à ses obsèques, mais malgré cela, la presse conservatrice saluera avec dignité l'ancien communard devenu député. Je les cite « Quoique de profondes divergences politiques nous séparassent de lui, nous avions conçu une telle estime pour son caractère et nous avions exprimé avec tant de sincérité l'admiration que nous avait inspiré son rôle en Nouvelle-Calédonie pendant la révolte des Kanaks. Le député intransigeant qui meurt aujourd'hui laisse une veuve inconsolable et était en même temps un bon Français. Nous ne saurions l'oublier et nous tenons à exprimer aux siens tous nos regrets. » Alors ça, c'est le ton, le style de l'époque, hein. Charles Amouroux, en franc-maçon engagé, a laissé le témoignage d'un homme courageux, fort d'un idéal, un patriote. Il a montré aussi que face au péril, il faut fuir les combats fratricides et qu'il n'y a pas de voie plus raisonnable, plus nécessaire que le rassemblement de la nation autour d'un idéal. Charles Amouroux est de ceux qui nous ont montré que malgré nos légitimes et naturelles différences, ce qui nous est commun est la pierre angulaire et finalement le plus important.
Merci beaucoup, Laurent. Laurent Kupferman. On reconnaît quand même à travers sa chronique le spécialiste du solidarisme et de Léon Bourgeois. Ça transparaît toujours un peu. Et on va retrouver un peu plus tard dans l'émission. C'est vrai, des lieutenants de Blanqui, je pense à Émile Eudes, par exemple, de la Justice 133 ou bien d'autres, que nous allons retrouver. Et alors, je vais tout de suite passer la parole, parce que là, on a eu ce qui est bien, Laurent, au moins, à fixer les dates et le cadre pour ce qui est la fin de l'Empire et le début de la Commune, et puis la Commune et après. Mais je voudrais demander, en quelques minutes, c'est vrai que c'est un exercice difficile, à André Combes, d'abord, de nous faire un petit panorama, parce qu'on comprendra rien à la franc-maçonnerie sous la Commune si on n'a pas quelques idées claires, simples, claires et assez précises sur ce qu'est la franc-maçonnerie. Disons, on va essayer de faire court entre 1848 et 1870. En cas de trait, je ferai 2-3 petites précisions s'il le veut, mais disons pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien où on en est en 1870. André Combes.
Alors, en 1848, la franc-maçonnerie est républicaine. Là, c'est un fait avéré. Et tous les élus qui de la maçonnerie qui étaient représentés dans la première assemblée constituante étaient des républicains. Mais tout a changé à partir de 1849, quand il y a eu une répression venue du pouvoir de l'assemblée du président, nouveau président,
Louis-Napoléon.
Et puis de Louis-Napoléon et d'une assemblée monarchiste, passée monarchiste, la répression a commencé, si bien que beaucoup de maçons ont dû s'exiler. Et il va y avoir donc deux types de maçonnerie, une maçonnerie des exilés et une maçonnerie en France. Cette maçonnerie qui est restée en France, elle se divise en deux grandes obédiences et un groupuscule. La première obédience, c'est le Grand Orient de France, je cite uniquement par le nombre de membres. La seconde, c'est le Suprême Conseil de France, on les distingue souvent, par simplification, rite français et rite écossais. Le rite français a subi un grand maître épouvantable qui était le prince Murat, et c'était la condition nécessaire pour assurer sa survie.
Vous lui devez la rue Cadet.
On lui doit quand même l'immeuble de la rue Cadet, c'est vrai, mais c'est pas lui qui l'a payé.
C'était une boutade.
Alors, de l'autre côté, le rite écossais s'est épuré de ses éléments les plus avancés à partir des années 49-50 et il mène une vie paisible et on n'entend pas parler de lui jusqu'en 1860-62. Entre la période ensuite où l'Empire se libéralise, le Grand Orient va être dirigé par des grands maîtres bonapartistes, mais c'est une obligation. Dans la mesure où, sinon, la franc-maçonnerie risquerait d'être interdite. Mais ce n'est qu'à partir des années 65-66, quand l'Empire se libéralise, que les loges maçonniques du Grand Orient comme du rite écossais deviennent de plus en plus contestataires pour aboutir jusqu'en 1870, où les présidents, les grands maîtres des deux grandes organisations maçonniques, rite français et rite écossais, sont des républicains, d'un côté Babo Larivière et de l'autre côté Adolphe Crémieux. Alors du côté écossais, donc du côté du Suprême Conseil de France, il y a eu un phénomène de prolétarisation qui touche essentiellement la capitale et qui, pour des raisons bien simples, d'abord la cotisation était moins chère. La seconde raison, c'est qu'il y avait une certaine antipathie à l'égard des grands maîtres du Grand Orient et on préféré aller du côté où il n'y avait pas de pouvoir bonapartiste, même si la direction était monarchiste ou tout au moins libérale. Et les deux maçonneries ont progressé. Quand on est en 70, le Grand Orient sur Paris compte environ 4 000, 5 000 membres.
Un peu moins de 2000 peut-être, le rite écossais, non
et, un peu plus de 2000.
Un peu plus de 2000.
Un peu plus de 2000, c'est-à-dire à peu près
un
la
pour
moitié.
Deux.
Et il y a un troisième petit groupuscule qui s'appelle le rite de Misraïm, qui pratique un rite néo-égyptien et qui compte 139 membres.
Ouais, c'est moins de 150, j'allais dire.
Moins de 150, et on les trouvera participant à toutes les manifestations de la Commune.
Ouais. Il n'y avait qu'une seule obédience, le Memphis Misraïm, à cette époque-là.
Oui, il y en avait qu'une. Mais ils étaient que 139. Et oui, peut-être pour illustrer, parce que nous sommes juste... très bien, non, on est impeccable dans les temps. pour illustrer ça, je vais comment dire, parler 5 minutes de ce dont parlait André Combes tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait eu déjà en 1848, et je parle de ça sous le contrôle de Christophe Bitteau, parce que les Trinitaires étaient dans le coup, il y avait eu, parce que comme les loges du Suprême Conseil ne s'étaient pas engagés dans la République, il y a eu une première mini-scission qui avait donné une obédience qui s'appelait, à ne pas confondre aujourd'hui, mais la Grande Loge Nationale Française, avec quelques loges, dont les Trinitaires numéro 3, et qui n'a pas réussi à se faire reconnaître, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la loi sur les associations, hein, fallait que le pouvoir reconnaisse, etc. Et le pouvoir l'a interdit en 1850 ou 51, je ne sais plus. Et donc, ils sont retournés à la Grande Loge Centrale du Suprême Conseil. Mais il y avait déjà eu un petit coup de fourreau. Et en 1868, en effet, il y aura également, sous le prétexte d'un immeuble, il y a un problème immobilier, comme toujours, le Suprême Conseil n'aurait pas payé les loyers, donc ils ont failli être expulsés. Mais bon, et donc voilà, il y aura une autre révolte des Écossais en 1868, mais qui va se terminer, parce qu'il y aura la Commune, il y aura la guerre après, donc ça, voilà. Mais c'est pas du tout ça que vous parlez, mais c'est vrai que les frères du Suprême Conseil étaient un petit peu virulents. Vas-y, Christophe Bitteau.
Si je peux compléter simplement, c'est que à cette période-là, alors d'abord une petite précision quand même, parce que Jean-Laurent m'a présenté tout à l'heure comme enseignant et historien, c'est à moitié vrai. Je suis enseignant, mais historien très très amateur.
Oui, hein. Pardon.
Et
oui.
Si certes, Élymée, communard et franc-maçon, se veut un livre biographique, l'autre, l'unique et l'initié, est plutôt un témoignage d'un militant anarchiste et engagé franc-maçon par ailleurs. Donc, juste une petite précision.
Ça parce que, comment dire, Laurent Kufferman a des yeux grands ouverts, donc il y a des anarchistes à la Grande Loge de France.
Il y en a au moins un.
Oui, il y en a souvent. J'en ai d'ailleurs historiquement, n'est-ce pas?
Mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup.
Alors, sans doute plus qu'au Grand Orient.
Je pense. Oui. Je pense. Absolument. Et un de mes prédécesseurs, si je puis dire, mon camarade, frère et ami Alexandre Hébert, était à la Grande Loge de France et non pas au Grand Orient de France. Donc ça, c'était une petite parenthèse, hein, simplement pour rectifier sur le fait, non pas le régime, mais sur le fait que je sois pas historien. Je pense qu'à cette période-là, un certain nombre de révolutionnaires ont été attirés plutôt par le Suprême Conseil de France, notamment les blanquistes. Parce que c'était le seul endroit, la loge maçonnique, où on pouvait justement être à couvert. On était dans une période sous l'Empire où les mouches, c'est-à-dire les agents de la police impériale, contrôlaient absolument tout. Et le seul endroit où on pouvait plus ou moins travailler à couvert, à préparer la révolte, c'était les loges maçonniques. Et le Suprême Conseil de France, je pense, a eu à un moment où le Grand Orient de France semblait, aux yeux de beaucoup, très attaché au pouvoir, a su attirer quelques blanquistes, un certain nombre même d'ailleurs, ce qui explique.
On parlait d'Émile Eudes tout à l'heure,
absolument.
Par exemple.
Et Proto.
Émile Eudes, Élimée, Le Français, enfin il y en a beaucoup qui étaient au Suprême Conseil de France.
Ah.
Voilà,
ah.
Juste une petite précision historique avant que ça ne sonne.
Juste trois secondes. Juste une petite précision. Attendez, Laurent Kupferman, juste trois secondes.
Oui. Ben écoutez, c'est vrai que les anarchistes étaient plutôt attirés par le Suprême Conseil, mais enfin, il n'y avait quand même pas que des anarchistes au Suprême Conseil, et il n'y avait pas que des anarchistes non plus, très peu d'ailleurs, au Grand Orient de France. C'était quand même, le Grand Orient était peut-être l'obédience de l'ordre, mais il y avait aussi des membres des bonapartistes au sein du Suprême Conseil.
Bien sûr, mais il n'a échappé à personne que les anarchistes sont minoritaires partout.
Ouais, mais peu, et je voulais revenir, c'est pour ça, à un moment un peu particulier qui est 1862, cette crise, entre guillemets, qu'il y a eu. Parce que comme l'a rappelé brièvement tout à l'heure André Combes, il y a eu en effet l'élection de Murat, du prince Murat, et qui va demander à être réélu. Il va se présenter pour être de nouveau grand maître. Et là, aux surprises, il y a un autre bonapartiste, Jérôme Napoléon.
Plomb.
Non, c'était pas lui.
Si, c'est Jérôme,
Pardon, oui, c'est vrai. Ouais. Qui va tenter de se présenter contre lui.
Plomb qui est républicain.
Oui, avec l'appui d'un courant républicain.
Avec l'appui d'un courant républicain. Ouais. Donc, il y a la lutte, j'allais dire fratricide ou cousinicide ou familiale. Ouais. Et donc, comme on fait souvent dans ces cas-là, qu'est-ce que fait l'empereur? Bah, puisqu'il y a une bagarre entre un et deux, il en choisit un troisième. Bon, il se trouve que
c'est raisonnable.
Il se trouve que celui qui choisit, c'est le général Bernard Magnan.
Maréchal
Bernard Magnan. Détail sans importance. Il n'est pas franc-maçon. Mais bon, il est fait franc-maçon le lendemain. Je sais plus combien. Le 1er février, je crois, 1862. Ils lui font même passer les 33 degrés du rite écossais comme ça en une soirée. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il a son truc.
Cadet vaut bien une initiation.
Exactement.
Cela dit, c'est la franc-maçonnerie américaine.
Hein. Non, impérial, là. Et comment dire? Et Magnan, mais pour ceux qui nous écoutent, le maréchal Bernard Magnan, c'est pas un perdreau de l'année, j'allais dire, c'est pas un gentil franc-maçon comme on peut les imaginer aujourd'hui. C'est quand même l'homme du coup d'État du 2 décembre 1851. C'est celui qui va faire le coup de feu pour que Louis-Napoléon Bonaparte réussisse son coup d'État. Donc, je veux dire, c'est un proche des proches de l'empereur et pas un jeune perdreau de l'année. Ce sur quoi l'empereur donc le nomme, et il le nomme par un décret que j'ai là, qui dit article 1er, c'est là où il va y avoir quelque chose qui va créer une confusion pendant un petit moment. Il lui dit: le grand maître de l'ordre maçonnique de France, jusqu'ici élu pour 3 ans en vertu des statuts de l'ordre, est nommé directement par nous pour cette période. Comme ça, c'est simple. Article 2, son excellence monsieur le maréchal Magnan est nommé grand maître du Grand Orient de France. Alors, qu'est-ce que va faire Magnan, d'ailleurs, avec quand même l'aval de l'empereur, même s'il lui dit pas? Il va renouveler ce qu'il a quand même essayé le Grand Orient de France à quelques reprises, hein, en 1804, en 1815, en 26, en 41. Il écrit tout simplement, en février 62, au souverain grand commandeur, le frêle et vieux Viennet, qui est musicien, une lettre disant... Le premier et le plus important de ses devoirs est de réunir en un seul faisceau toutes les formes maçonniques et d'arriver à l'unité dans l'ordre maçonnique, c'est-à-dire d'absorber purement et simplement le suprême conseil au sein du Grand Orient de France.
Il n'avait pas l'expérience. Donc
non, mais il voulait faire... C'était une tradition bonapartiste. Il voulait refaire ce qui a été refait en 1804. Bon, ben voilà, je veux voir qu'une seule tête, on va réunir les deux. Je suis le maréchal Magnan, et voilà, et... Et seulement, fait assez bizarre et assez étrange, c'est que au lieu de se soumettre comme ce qu'avait fait Grastilly en 1804, eh ben le vieux Viennet, tout vieux, tout frêle qu'il était, va résister. Il lui dit, alors on a les lettres, je vais pas tout vous lire parce qu'il y en a quelques pages, mais il dit: vous m'avez fait l'honneur de me dire une heure avant votre installation que vous ignoriez complètement ce que l'empereur vous avait chargé de diriger et que vous n'aviez aucune notion de la maçonnerie. Nos relations s'étendent, les relations du rite écossais, dit-il, enfin, nos relations s'étendent aux extrémités du monde tandis que les vôtres ne dépassent pas la frontière, que l'empereur explique son décret selon vos désirs, je me démets à l'instant de mes fonctions de souverain grand commandeur. Tant qu'il restera un maçon du 33e degré, il deviendra le chef de l'ordre, le régulateur suprême des loges du rite écossais, et qu'en définitive, l'autorité publique aura seule le pouvoir d'interrompre cette succession. Bref, Viennet résiste, et va résister tant et si bien après moult et moult courriers, que, en fait, Viennet, qui était plutôt monarchiste, quand même, Viennet, c'est pas non plus un révolutionnaire pur sucre, eh ben, l'obédience du rite écossais, bien qu'elle soit dirigée par Viennet, héritier du duc de Case, va passer pour l'obédience qui a résisté au maréchal Magnan, qui a résisté à l'empereur et qui a réussi en plus son coup, c'est-à-dire qui a vaincu, enfin en tous les cas résisté, ce qui fait
qu'il n'a pas perdu,
voilà. et qui a résisté victorieusement à l'empereur et à l'homme du coup d'État, et ben du coup un certain nombre de je sais pas comment on dit, de républicains, de blanquistes, de socialistes, de tout ça vont se faire initier.
Oui. Faut pas non plus faire passer le suprême conseil pour le.
Non mais c'est ce que je dis. C'est ce que je disais. Viennet, qui était un monarchiste, hein, et avec une direction monarchiste, va tolérer. Alors je sais pas comment on dit ça, mais en tous les cas c'est un fait que viennent grossir les rangs de leur loge, de la grande loge centrale, tout un tas de types qui sont
pas dans l'ordre.
Ah, qui sont, alors, tant que c'est Floquet, Brisson, et encore Brisson, enfin, c'est, maintenant, il nous apparaît comme des conciliateurs, enfin, c'était des sacrés loulous, mais tout un tas de personnes dont on va parler, qui seront initiées entre 1865 et 1870, qu'on parle de mesureurs ou de valets en 1869, mais de bien d'autres maçons, qui vont se faire initier dans cette obédience-là, tout simplement parce qu'elle avait l'image, peut-être à tort d'ailleurs, en tous les cas à tort en ce qui concerne la direction du Suprême Conseil, mais d'une obédience qui avait résisté victorieusement à l'homme du coup d'État et à l'empereur. Ce qui explique ce que disait André Combes tout à l'heure, qu'il y ait au sein des loges qui dépendent du Suprême Conseil tout un tas de types dont on s'étonne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils aient pu y être. André Combes.
Oui, on peut ajouter à cela que, d'une part, le Grand Orient et le Suprême Conseil sont majoritairement, en France en 1870, sont déjà républicains, mais qu'il n'y a que quelques loges, essentiellement parisiennes, qui soient des loges tenues par des révolutionnaires. Et il y en a à peu près autant d'un côté que de l'autre. Hein. Les deux courants, donc ça c'est un fait. Deuxième point, c'est la maçonnerie de ce temps-là, surtout à partir de 65 jusqu'en 1970, mène le même combat. C'est-à-dire à la fois un combat pour la laïcisation de l'obédience, c'est le combat contre le grand architecte de l'univers considéré comme Dieu, avant qu'il soit considéré comme un principe créateur, ce qui a arrangé momentanément les affaires. Il y avait le même combat anticlérical, et le même combat social, et pour certaines loges socialistes. Donc la maçonnerie n'est pas unifiée, elle ne forme pas un bloc homogène. On le verra d'ailleurs pendant la Commune.
Oui, mais même un peu avant, les hospitaliers socialistes à la Grande Loge de France, c'est 1852, si je me souviens bien. Donc c'est ce combat-là, oui, tout à fait. Christophe Bitteau.
Oui, pour préciser que je pense que dans toute l'histoire de la franc-maçonnerie, il y a eu quand même un hiatus entre les frères et les obédiences. Les obédiences, quelles qu'elles soient, que ce soit le Grand Orient de France ou le Suprême Conseil de France, ont toujours été légitimistes. Historiquement, chaque fois qu'il y a eu une rupture, chaque fois qu'il y a eu un moment révolutionnaire, les obédiences, et on le verra pour la Commune, se sont toujours montrées légitimistes. Même au moment, au tout début de l'occupation allemande. Donc je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les frères qui étaient engagés révolutionnaires, qui pour des raisons très ponctuelles que tu as expliquées, Jean-Laurent, étaient plutôt au Suprême Conseil de France, et les obédiences, la direction était... j'ai entendu Laurent qui disait tout à l'heure, il ne faut pas faire passer le Suprême Conseil de France pour un organe révolutionnaire, bien évidemment, pas plus que le Grand Orient de France. Non, c'était vraiment le fait des individus, des militants.
Oui, c'est ça. Et puis la maçonnerie est obligée parfois d'être plastique. Donc pour s'adapter aux réalités politiques,
il y avait les loges parisiennes, et c'est vrai que là, ce dont on disait avant l'émission, la grande loge centrale, le Suprême Conseil de France, est une obédience, j'allais dire, essentiellement parisienne. Il y a des loges en province, mais c'est essentiellement une obédience, disons, au Grand Paris, quoi, avec quelques excroissances en province, alors que le Grand Orient de France a quand même une étendue nationale, j'allais dire. Et donc, il va être plutôt aussi, on peut en parler, les loges de province, par exemple, vont pas suivre du tout. C'est un phénomène de loges plutôt parisiennes et de la banlieue parisienne.
Oui, c'est un phénomène urbain plutôt qu'un problème...
Et des loges de banlieue.
À part André... Paris, Marseille, quelques villes, quelques citadelles ouvrières, la maçonnerie est devenue peu à peu républicaine, mais elle est, on dirait aujourd'hui, elle est radicale, mais pas dans le sens de l'époque. Le radicalisme en 70, c'est quand même une gauche très forte, voire Amouroux, par exemple.
Absolument. Ça veut dire radicaux, quand on est radicaux. Au terme, on est radical. On va peut-être faire une petite pause musicale avec un peu de retard. Bon, on va écouter Le Temps des Cerises. À chaque fois, j'oublie le nom de
Jean-Baptiste Clément.
Oui. Les Rénovateurs de Clichy, du Grand Orient de France. Allez, Le Temps des Cerises.
Interprété par Mouloudji.
Nous en serons au temps des cerises, le doux rossignol, le merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, quand l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, pendant sous les feuilles en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Eh bien, de retour avec nos communards, nos anarchistes et nos francs-maçons, toujours avec André Combes, historien, avec Christophe Biteau, historien amateur, mais historien, enfin qui connaît bien l'histoire de la période. Voilà. Alors, nous avons vu un certain nombre de choses dans cette première demi-heure d'émission. Là, pour faire très vite, et comme le rappelait tout à l'heure Laurent Kupferman, l'Empire s'écroule, le 4 septembre, la République, un certain nombre d'élections, il y a une commune de Paris qui se crée pour résister à l'envahisseur prussien, tout d'abord, et un gouvernement qui se réfugie à Versailles sous la houlette de Thiers. Et André, quelle va être l'attitude des francs-maçons lorsqu'ils voient que entre Paris et Versailles, la tension monte, qu'il y a des risques de conflit, il y a un certain nombre de gens qui vont essayer peut-être des hommes de bonne volonté, ou des gens qui vont essayer de faire que on arrive à s'entendre contre les Prussiens d'ailleurs, et qu'on arrive à s'entendre pour sauver la situation.
Alors les choses
André Combes.
Oui. Alors donc tout simplement, il y a déjà au sein de la maçonnerie parisienne, il y a déjà une rupture pendant le siège.
Oui.
Les éléments les plus durs sont déjà pourchassés, et arrêtés à la suite de deux journées plus ou moins insurrectionnelles. Et donc deux conceptions de la maçonnerie alors s'opposent. La première, c'est que la maçonnerie doit réunir les hommes dans un esprit de fraternité universelle, et donc ne doit pas être trop partisane. Elle est républicaine, mais elle ne doit pas prendre parti pour un clan ou pour un autre. Alors donc la mission de la maçonnerie, puisque la guerre civile éclate, c'est de se mettre entre les combattants et d'essayer de trouver une porte de sortie devant, alors qu'il y a les Prussiens qui encerclent Paris, entre d'un côté les communards et de l'autre côté le gouvernement versaillais. C'est ce qu'on appelle le mouvement conciliateur, basé simplement sur l'obtention pour Paris des franchises municipales. C'est un courant qui est majoritaire, ceci au moins jusqu'au 29 avril. Le deuxième courant.
On viendra sur le grand défilé, grande, etc. On parlera spécialement de cet événement.
Oui, le deuxième courant, c'est un courant qui pense que le devoir d'un maçon est d'être à l'avant-garde. L'avant-garde du combat républicain et pour l'abolition du prolétariat, comme on disait à l'époque. Et donc, ce courant-là ne comprend pas la position
des conciliateurs
mmh. et s'est engagé complètement du côté de la commune. Évidemment, il y a des passerelles. Mmh. On a pu être conciliateur un moment et ensuite passer du côté de la commune comme l'a fait Benoît Malon.
Benoît Malon ou Thierry Foch, par exemple. Enfin, qui va Thierry Foch,
ouais. C'est un personnage, lui, un peu bizarre.
Un peu curieux.
Oui. Donc il y a deux conceptions de la maçonnerie qui s'opposent, comme mmh. elles existent encore aujourd'hui. Mmh.
Alors, il faut préciser en plus que ces conceptions traversent de la même façon les deux obédiences dont tu parlais tout à l'heure, enfin le rite français et le rite écossais, le Grand Orient ou la Grande Loge Centrale du Suprême. Ces clivages existent, mais pour que nos auditeurs comprennent mieux aujourd'hui, il n'y a pas, je sais pas quoi, l'un à gauche, l'autre à droite, etc. Ce courant de pensée conciliateur traverse, j'allais dire, les obédiences et les loges, et l'autre aussi. Enfin, c'est pas une question d'obédience, là, ou de rite, c'est une philosophie qui sépare des maçons, quelles que soient leurs obédiences et leurs rites.
D'autant plus que les maçons se sont peu réunis pendant le siège, si ce n'est pour condamner les crimes du roi de Prusse, pendant la Commune également, parce qu'ils étaient
pour le chasser
à la garde
de la
nationale.
Maçonnerie.
Oui, ouais. Ils étaient à la garde nationale, donc il y a eu très peu de réunions de loges pendant cette période-là. Voilà ce que l'on pourrait dire. Alors, le mouvement conciliateur s'exprime d'une façon non maçonnique à travers Charles Floquet, qui pourtant est maçon, mm-hmm. à travers l'Union républicaine pour les droits de Paris. Mm-hmm. Et une loge maçonnique du Grand Orient va prendre les disciples du progrès, qui s'appelle les disciples du progrès, va prendre l'initiative pour que les maçons, d'abord du Grand Orient, puis ensuite de l'ensemble des deux obédiences, fassent des propositions allant dans le sens d'une négociation. Et ils vont échouer une première fois 11 avril en allant voir Jules Simon, qui était le seul maçon membre du gouvernement tiers, qui leur a menti en disant qu'ils seraient satisfaits avec la loi sur les franchises municipales. Et puis ensuite, et en allant voir Adolphe Thiers, reçu par le président de la République.
Il faut imaginer qu'ils y vont à pied, à cheval, qu'ils font Paris, Versailles, en passant les frontières, en passant les lignes, etc. Et que voilà, enfin, c'est une expédition, quoi.
Oui, alors, c'est dans un sens conciliateur. C'est-à-dire qu'ils ont l'accord à la fois de la commune, qui leur a permis de partir.
Qui les mandate pour aller là-bas.
Et d'autre part, du côté Versailles. Et puis, c'est l'échec à Thiers en particulier, qui a dit simplement il y aura quelques maisons de brûlées, que
la force restera
au droit. Et puis d'autre part, que de toute façon, il n'y avait pas de négociation possible avec ceux qui ont assassiné les deux généraux, le comte et Clément Thomas. Oui. Et donc ces tentatives des conciliateurs étaient vouées à l'échec, et celle des maçons a été bien vue. Oui. Et celle des extérieurs à la maçonnerie, mal vue. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de maçons qui sont au sein de la commune, à la fois à la garde nationale, officiers ou même simples combattants, ou bien dans les organes dirigeants de la commune. Un quart des élus de la commune sont maçons.
Ah oui, je me rappelle plus, parce que je l'ai lu en plus. Gabriel Ranvier, par exemple, de la ligne droite, est le commandant de la garde nationale. La ligne droite du Suprême Conseil. C'est le commandant de la garde nationale de la commune. Mmh. Oui, en effet, il y a à la fois dans la commune et dans les élus et dans les organes dirigeants et combattants, j'allais dire, il y a beaucoup de maçons. Mmh. Christophe Bitot.
Oui, effectivement, les francs-maçons ont été pour la plupart conciliateurs, mais vraiment jusqu'au bout. La fameuse journée dont on va parler tout à l'heure, les francs-maçons ont planté les bannières.
Après la chronique de Jean-Michel Dardot.
Les francs-maçons ont planté les bannières maçonniques sur les barricades et ont attendu, ils ont dit, on attendra de voir si nos bannières sont bombardées. Et elles le furent, bien évidemment. Et c'est là qu'ils sont passés véritablement en masse dans la commune. Mais au départ, effectivement, il y a eu plusieurs tentatives de conciliation, deux ou trois, si mes souvenirs sont bons. Et puis jusqu'au bout, on a tenté de.
Mais c'est pas si moche que ça d'essayer de faire jusqu'au bout que, comme le rappelait Laurent tout à l'heure, c'est 25 000 morts, quoi. Donc il y a quand même des types qui peut-être plus d'ailleurs,
peut-être plus que ça, que des types se disent on va essayer d'éviter le massacre et le bain de sang, c'est pas des gens qui sont ni pas courageux ni je sais pas quoi, c'est juste enfin moi j'ai enfin ces conciliateurs étaient des gens de bonne volonté, enfin un type comme Floquet qui va se battre contre Boulanger après etc enfin bon c'était des vrais républicains et
oui, puis c'est toujours bien de lutter contre les luttes fratricides.
Oui bien sûr, oui, ils voulaient. André Combes.
Oui, ils vont jouer un rôle important après la défaite de la Commune en organisant l'aide aux familles des détenus hein, ou des familles des morts et d'autre part en menant la campagne pour l'amnistie. c'est le mouvement conciliateur parce qu'eux n'ont pas été arrêtés.
Oui.
Ou très peu.
Les autres sont ailleurs. Les communards, ils sont exilés ou morts ou en prison.
Donc, ils sont libres. Pas tous. Hein. Il y en a qui ont fait quand même quelques années de prison. Mais en fait, ce sont eux qui vont mener la bataille pour l'amnistie.
Parce que ça va durer. Enfin, 9 ans, c'est 1880 l'amnistie quand même, donc ça
1880.
Va durer un paquet de temps. Nous allons faire pas un break d'ailleurs, parce qu'on ne fait pas de break, nous allons écouter la chronique de Jean-Michel Dardour qui est avec nous et qui est fin prêt, je crois. Jean-Michel, tu as la parole.
Merci Jean-Laurent, oui, bonjour à tous. Alors puisque je suis un petit peu en
pardon, j'ai oublié de dire, oui. Jean-Michel Dardour qui est le président de Franc-Maçonnerie et Société.
Merci Jean-Laurent. Oui. Et donc quelque peu dépositaire de la rubrique actualité de cette belle émission. Donc retour en 2014 pour quelques instants. Et donc aujourd'hui je voudrais vous parler de la couverture du Figaro magazine daté de ce jour. Comment on devient franc-maçon?
C'est toujours dans l'actualité, surtout
aujourd'hui.
Dès qu'il commence à pleuvoir, on a des marronniers.
Voilà. Eh bien, le contenu, mon cher Jean-Laurent, n'échappe pas aux marronniers habituels de la presse, je vous rassure. Le dernier en date était le hors-série du Point cet été, un énorme pavé qui ne nous apprenait déjà rien, et d'ailleurs, ni à nous, ni aux lecteurs et aux lectrices non initiés. Il y était tout à fait référence, comme d'habitude, aux hommes politiques principalement, qui en est, qui n'en est pas, sauf que celui du Point ne dépassait pas les années 90, donc 24 ans de retard sur l'actu, ça fait un peu, beaucoup, quand même, hein, Charles Hernu, Guy Pen et compagnie, ça date. Donc aujourd'hui, le Figaro Magazine, dans le Figaro Magazine, vous apprendrez que Manuel Valls a été franc-maçon pendant 8 ans, et que les ministres Rebsamen et Le Drian en sont aussi. Donc, je vous le dis tout de suite, comme ça vous fera économiser 3,80 €, chers auditeurs et auditrices.
C'est surtout que ça fait au moins 20 ans qu'on le sait. Enfin, je veux dire, dans tous les marronniers depuis 20 ans, c'est toujours les mêmes dont on nous dévoile l'appartenance maçonnique.
Ah, on nous donne aussi quelques sympathisants politiques. Je ne sais pas ce que veut dire sympathisant. Peut-être ceux qui viennent plancher dans les loges. mais inutile de vous donner les noms, ça n'a aucun intérêt. Non. Donc, je vais passer aussi sur les révélations du genre que pour être promu quand on travaille à la sécurité sociale, il vaut mieux en être. Et qu'une salariée d'une banque a, ouvrez les guillemets, fini par comprendre que son licenciement brutal était lié au souhait de la nouvelle direction très franc-maçonne de placer un des leurs. Encore le complot, mais c'était l'émission du mois dernier. Donc, on apprend aussi que la franc-maçonnerie sont plutôt des fonctionnaires, des membres des professions intellectuelles, que les recrutements, le mot est bizarre dans mon oreille, mais bon, que les recrutements d'artisans et d'ouvriers sont vraiment très rares, pas de chance. Dans ma loge, il y a un artisan, mais aussi un chef d'entreprise, un informaticien, un enseignant, un assureur, un commercial, et deux chômeurs.
Et André Combes nous dit que dans son livre, que les artisans et les ouvriers sont nombreux. En 1870.
Un quart des effectifs des loges de Paris.
Ah.
Et il y avait également 10% de marchands de vin aux limonadiers.
Ah. Voilà. Ça, c'est une grande tradition.
Soir, on a 140 ans de retard, on n'est plus un marronnier. Là, on est carrément dans la jungle préhistorique.
Il vaut mieux lire André Combes que le Figmag.
Non.
La nouveauté aujourd'hui, c'est que le Figmag a l'ambition de nous décrire une initiation maçonnique en 12 lignes. Alors, première étape, le recrutement, encore ce mot, qui me semble totalement inadéquat. Deuxième étape, les enquêtes. Troisième étape, le grand oral. Quatrième étape, la cérémonie de l'initiation. Probablement, notre ami journaliste a-t-il obtenu quelques confidences, car il nous gratifie de mots savants, qui ne disent rien de plus d'ailleurs aux lecteurs, ni à vous, chers auditeurs. Cabinet de réflexion, testament philosophique. Déposer les métaux, les yeux bandés, la corde au cou, les mots sacrés, les mots de passe et cerise sur le gâteau, vous aurez les noms des deux colonnes d'entrée du temple de Salomon, Jacquin et Bose. Voilà, voilà bien avancé, chers amis. Alors, un conseil, n'achetez pas le Fig Magazine cette semaine, achetez plutôt le dernier Franc-Maçonnerie Magazine, vous y découvrirez des articles beaucoup plus intéressants et profonds, et allez plutôt écouter et participer à un colloque sur le sens de la vie que je vous recommande, qui est organisé par nos frères de la GLAMF, l'Alliance maçonnique de France, le 22 novembre prochain, n'est-ce pas, cher BP. Vous y entendrez de vrais francs-maçons en live qui vous expliqueront ce qu'est la spiritualité maçonnique. Comment la franc-maçonnerie peut vous permettre de vous transformer intérieurement en quelque chose qui se vit mais ne s'écrit pas dans un journal. Une spiritualité qui englobe la pensée, l'imagination, la sensibilité, la volonté. Des exercices qui engagent tout l'esprit pour un nouveau mode de vie, une forme de vie, un choix de vie. Une valeur existentielle qui vise notre mode d'être dans le monde. Il y aura aussi beaucoup d'intervenants non-maçons dans ce colloque sur le sens de la vie. Je cite André Comte-Sponville, Cynthia Fleury, Lélie Anvar, Jean-Claude Guillebeau, Bertrand Vergely et beaucoup d'autres qui dialogueront sur soi et l'autre, sur l'éthique, sur l'écologie.
Gérard Rabinovitch, je crois.
Oui, il y a aussi Gérard Rabinovitch. La connaissance, l'harmonie et la poésie. Et c'est gratuit et c'est ouvert à tout public. Alors inscrivez-vous sur le site www. Je fais de la pub. Hein.
Oui. Nous on fait de la pub. On parle des bouquins, des auteurs, des maisons d'édition. Voilà. On est pour que les gens achètent les livres, viennent au colloque. Enfin, c'est très bien.
Sur le site www.ers-alliance, comme une alliance avec deux L.org. C'est le 22 novembre à l'Arche de la Défense. Moi, en tout cas, j'y serai toute la journée. Alors, si vous voulez passer, vous demandez Jean-Michel Dardour et je me ferai un plaisir de vous conter la beauté de la franc-maçonnerie. C'est le 22 novembre à La Défense. Merci.
Merci, mon cher Jean-Michel. Donc, rendez-vous est pris pour celles et ceux qui veulent voir Jean-Michel Dardour en vrai, en chair et en os. À La Défense, le 22, il va vous expliquer ce que c'est que la franc-maçonnerie d'aujourd'hui.
Vas-y, Laurent.
Mais nous allons revenir... back in the past, ou to the past, je sais pas comment on dit. Et nous allons finir l'heure, et peut-être un petit peu de l'autre, mais enfin on va essayer de finir celle-là, sur ce dont a parlé Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire cette grande manifestation des francs-maçons, dont on a plusieurs témoignages, hein, il est écrit avec tous leurs décors par grade, d'ailleurs on dit les chevaliers Kadosh, etc., qui avaient leurs décors différents. Vous voyez, André en parle bien dans son livre en disant qu'il y avait certainement aussi beaucoup d'anciens maçons, parce que la cotisation était chère, et donc ils avaient, même ceux qui étaient plus depuis un moment étaient revenus pour cette manifestation. Et ce qui est drôle, moi j'ai vu ça il y a pas trop longtemps, en regardant justement les archives de la justice 133, c'est que les loges se réunissaient pendant la commune, et des débats dont on parle encore aujourd'hui, mais c'est assez rigolo, sont des débats qu'ils avaient déjà. Par exemple, pour cette fameuse manifestation, déjà, les francs-maçons de la justice 133 sont contents de savoir qu'il y en a plus dehors sur les barricades que dans la loge. Donc, ils retrouvent des frères qui étaient là avant. Mais surtout, il y a ce débat assez, pas surréaliste, mais assez intéressant, qui est bien retranscrit. La moitié des frères disant, est-ce qu'on doit y aller en tant que franc-maçon, c'est-à-dire avec nos décors, en tant que franc-maçon avec nos décors, ou est-ce qu'on doit y aller en tant que citoyen sans nos décors et avec un fusil. Alors, il y a qu'un seul truc sur lequel ils étaient tous d'accord, c'est qu'il fallait y aller à la barricade. Mais après, en décor ou sans décor, et on a, dans les archives de la 133, ces débats qui alimentaient les débats des frères de l'époque. Alors, André, on a laissé les frères après... Les deux, je crois, tenues, il y en a une justement au rite français, l'une au rite écossais, je crois qu'il y avait Floquet qui était orateur, etc., de la deuxième tenue, il me semble, celle qui s'est tenue au Châtelet,
oui.
Où Floquet se fait un peu déborder, d'ailleurs, enfin bon, y compris par un de ses frères, dont on a parlé tout à l'heure, du suprême conseil, enfin, Floquet, c'est la justice 133, et Thierry Fox, c'est la Jérusalem écossaise 99, ils décident, ces francs-maçons, d'aller défiler. Alors, ils vont déjà, je crois, voir le gouvernement, parce qu'ils retrouvent Jules Vallès, qui est aussi de la justice 133, d'ailleurs, par un truc. Et Thierry Foch lui prend
prend le drapeau rouge de Jules Vallès.
Il prend son écharpe
rouge. Écharpe rouge et lui dit, nous allons, je crois, alors Christophe, tu l'as, la citation, je l'ai prise dans le bouquin de Christophe, disant, nous allons prendre, elle doit être dans celle de d'André aussi, je dis ça, mais.
C'est la même histoire.
Voilà, c'est la même histoire. En disant que, je crois, il prend l'écharpe rouge et il les met dans les archives de la franc-maçonnerie. Je crois que c'est le terme employé.
Il prend l'écharpe rouge et il la met autour d'une bannière maçonnique. Pour symboliser l'alliance de la commune et de la franc-maçonnerie.
Alors, mon cher André, cette manifestation si je me souviens, parce qu'à chaque fois je réussis, c'est du 29 avril avril 1871 à Paris.
Oui, alors, il faut dire que au cours de la réunion de l'Assemblée du Châtelet, où on a eu le compte-rendu de la rencontre des francs-maçons avec Thiers, qui s'est très mal passé, il y a eu un basculement des maçons qui étaient présents, et on a su à ce moment-là qu'il y avait une majorité de maçons qui étaient tout à fait favorables à la commune. D'ailleurs, des personnages comme Ranvier ou Thierry Foch ont agi dans ce sens, ou Millière ont agi dans ce sens. Donc, quand la manifestation du 29 est décidée, elle a été décidée avec les élus de la commune de Paris, il y avait à y voir une inquiétude du côté des obédiences maçonniques qui vont se dire, attention, si les maçons se mouillent complètement avec la commune, et comme la commune va être battue, on va payer les pots cassés. Et il y a eu donc un affichage disant que les obédiences donc, ne se reconnaissaient pas dans cette manifestation. Il y avait donc finalement les maçons qui sont partis manifester, en compagnie d'ailleurs des compagnons du devoir, ce qui a fait qu'on a donné des chiffres entre 5000 et 10000 participants.
La déclaration de Malapert, je crois que c'est le 1er mai, où il dit, enfin c'est la seule d'ailleurs, on en reviendra à la fin, mais où il dit que ce qui est décidé là, en dehors de la Grande Loge Centrale, n'engage pas la Grande Loge Centrale.
Et le Grand Orient a fait de même.
Ils ont même placardé sur les...
Oui. Et donc, il y avait chez ceux qui sont partis pour manifester, il y a eu deux sentiments. Il y a ceux qui voyaient cela dans la continuation de la conciliation, et d'autres
manifestaient pour l'unité, enfin
et d'autres qui étaient déjà on manifeste pour la commune. Il y a donc une certaine ambiguïté dans cette manifestation du 29 avril. Le but, c'est quand même de prendre contact à nouveau avec les Versaillais. Qui fait dans ce sens-là. Voilà ce que l'on pourrait dire. Alors bon, dans le détail ça a été quelque chose, je crois, de unique dans l'histoire de la maçonnerie française. Effectivement, il y a toujours eu des défilés maçonniques avec des frères, avec des cordons, mais jamais un nombre aussi important.
Et on va en reparler, mais on va laisser nos auditrices et nos auditeurs sur le, comment dire, ils vont attendre un petit peu pour visualiser cette manifestation. Et on va écouter un petit morceau de musique avec Jean Ferrat. Et avec la commune, justement. Jean Ferrat, la commune, et après, on revient le 29 avril 1871 avec nos manifestants francs-maçons.
Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune. En écoutant chanter Potier, il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferriers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles. C'étaient des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, comme un commune, comme artisan et ouvrier, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme ouvrier et artisan, il se battait pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats,
aux consciences civiles. C'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, commun, commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter, potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament, ils s'éteignaient pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
Vous êtes toujours sur Deux Colonnes à la Une, Radio DTC, votre émission de web radio consacrée à la franc-maçonnerie. Nous voici dans la deuxième heure de l'émission, déjà, consacrée à la commune, les communards, les anarchistes et les francs-maçons. Alors avant... Et nous sommes toujours, bien entendu, avec André Combes et Christophe Biteau qui nous parlent de ce moment particulier de l'histoire de France. Alors, juste avant la commune de Jean Ferrat, bah, nous en étions, j'allais dire, aux prémices et aux premiers pas de la manifestation du 29 avril 1871. Alors maintenant, bah, voilà, on y est. Pourquoi cette manifestation a été... historiquement, la plus importante, on n'a jamais vu autant de francs-maçons, de compagnons, etc., dans les rues de Paris. Et elle a vraiment marqué pourquoi, comment, alors qui était là, ils ont défilé d'où à où, mais pour qu'on essaye de visualiser un peu ce que c'était que cette manifestation. Christophe Biteau.
Oui, alors cette manifestation, comme l'a dit André, regroupait outre les francs-maçons parisiens, également les compagnons de devoir. Et elle a marqué les esprits des Parisiens, véritablement, qui ont d'ailleurs été aussi impressionnés par la présence apparemment d'une loge féminine, qui a eu un grand succès lors de ce défilé. Alors ils ont été reçus d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, par la commune, hein, où j'ai retrouvé la façon dont le relate Vallès dans son journal L'Avant-Garde, où il dit « Tous les maçons, au sein de leur insigne, étaient là, graves et frémissants. Un membre de la commune, le citoyen Jules Vallès, propose que l'on échange bannière et drapeau. Qu'un maçon tienne le drapeau rouge, un membre de la commune, la bannière maçonnique. Comme il manque un drapeau rouge, on se demande bien ce que faisait l'intendance à cette époque-là, il détache son écharpe, que reçoit un vénérable aux acclamations de tous, et autour de la rampe maçonnique se roule l'écharpe du membre de la commune. » Je pense que quand on est franc-maçon, ça me paraît assez évident, on est sensible au symbole. Et là, c'est un symbole, c'est une image, c'est presque une image d'Épinal, et c'est l'union de la commune et de la franc-maçonnerie. Et là, effectivement, il y a un basculement, il y a une dernière visite à Thiers, on plante les bannières maçonniques, dont la bannière de ma respectable loge, les Trinitaires, qui figure en quatrième de couverture de mon ouvrage sur Élimée, où on voit même les impacts des balles dessus. Alors curieusement, cette bannière est maintenant au musée du Grand Orient de France, je ne sais par quel mystère. Peut-être qu'un jour on la récupérera au Trinitaire. J'en profite pour faire une petite annonce, ouais, hein, puisque j'ai à ma gauche un éminent représentant du Grand Orient.
Alors, la bannière des Trinitaires doit revenir.
Et oui. Après un passage par la Grande Loge Nationale, paraît-il. Il n'y a pas que les voies des seigneurs qui sont à pénétrables.
Ils ont dû l'acheter. Mais par contre, la bannière de la justice 133 est toujours à gauche dans le Grand Temple. Alors c'est une reproduction, parce qu'elle est vraiment en piteux état. Ils la conservent à température dans les sous-sols. Mais il y a une reproduction de la bannière de la justice 133, celle dont on a parlé abondamment aussi. Et juste à l'entrée de temple, où on voit en effet les impacts de balles, oui, parce que en effet, les bannières des loges qui étaient plantées dessus ont subi quelques...
Les francs-maçons, donc, après, se rendent en cortège jusqu'aux barricades de la porte Maillot, je ne sais plus où exactement, à la porte Maillot. Et là, ils plantent les bannières et, paraît-il, il y a un moment où le feu s'arrête. Parce qu'il y avait quelques francs-maçons aussi parmi les généraux versaillais. Ça n'a pas duré très longtemps. Très vite, la mitraille est revenue. Et là, vraiment, les francs-maçons ont basculé. Alors, il y a aussi quelque chose, on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on parlera des figures de la franc-maçonnerie de la commune. Cette manifestation a eu un véritable impact chez beaucoup de futurs frères et futures sœurs. Louise Michel, bien sûr. Il y a une très très belle lettre que peut-être je pourrais lire tout à l'heure, que j'ai publiée dans mes deux ouvrages. Une très belle lettre de l'auteur de l'International Potier, voilà, quand il demande à être initié à la loge des égalitaires à New York. Voilà. Et il parle de cette manifestation. Et en gros, il explique que c'est là, c'est du jour de cette manifestation qu'il a décidé de rejoindre la franc-maçonnerie.
André Combes.
Oui, ça explique d'ailleurs pourquoi il y aura tant d'anciens communards qui rentreront dans les loges dans un autre contexte. Mais certains juste après leur retour de déportation et d'autres dans les années 1900. La maçonnerie donc est populaire dans l'extrême gauche. Avec une réserve quand même chez certains marxistes qui se défient de la franc-maçonnerie au nom du principe de la lutte des classes.
Mais ils s'en méfieront toujours, et le courant guédiste, le gendre de Karl Marx et Jules Gued et toute cette aile-là, seront hostiles. Ceux qui rejoindront le Parti communiste et c'est la filiation de ça qui fera la fameuse interdiction de la double appartenance entre le Parti communiste et la franc-maçonnerie en 1922. Mais
il faut dire quand même qu'à cette époque-là, les marxistes sont très 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 minoritaires dans le mouvement ouvrier français. C'est essentiellement des proudhoniens, des internationalistes, des blanquistes, mais les marxistes sont quasiment inexistants à cette période-là.
Mais Marx n'avait pas d'hostilité à l'égard de la maçonnerie. D'abord, ces deux gendres ont été maçons, Longuet et Lafargue, donc c'était avant 1970. Une personnalité comme Massol a été reçue, qui est à l'origine de la morale laïque, disons, a été reçue par Marx. Il n'y a pas du côté. Par contre, quand on prend la première internationale, il y a des maçons aussi bien avec Marx que contre Marx, mais la majorité se situe plutôt dans les courants que l'on pourrait appeler, entre guillemets, anarchisants ou anarchistes, plus que Marx, qui est vraiment très autoritaire. Donc là, ça a posé un problème.
Je pense que nous allons écouter Hélène Cuny et ses actualités maçonniques, et nous ferons un certain nombre peut-être de portraits pour nous souvenir d'un certain nombre de figures franc-maçonnes de la commune. Hélène Cuny.
Bonsoir Jean-Laurent et bonsoir à tous nos invités et auditeurs. Coup de projecteur sur l'actualité. On commence par un événement qui a lieu ce week-end à Cannes. C'est le Salon maçonnique du Livre qui ouvre ses portes avec en point fort une grande exposition consacrée au chemin initiatique de Saint-Jacques de Compostelle. Des conférences et des dédicaces des meilleurs ouvrages du moment sont également organisées. Et vous pourrez aussi rencontrer les représentants des obédiences implantées dans la région. Rendez-vous à l'Ovotel Novotel Cannes Montfleury de 9h à 18h, samedi et dimanche. On enchaîne le 18 octobre avec une conférence consacrée aux femmes, plus spécialement à ces femmes qui ont réveillé la France. C'est le titre qu'a choisi le droit humain pour mettre à l'honneur toutes celles comme Maria de Rheims, Irène Joliot-Curie, Camille Claudel ou plus récemment Simone Veil, Marguerite Yourcenar, qui par leur engagement, qu'ils soient philosophiques, scientifiques, culturels ou tout simplement humanistes, ont marqué notre histoire et ont contribué à l'émancipation de leurs consœurs. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, et Valérie Bochneck animeront cette conférence. Alors pour vous y rendre, c'est au siège du droit humain, 9 rue Pinel, Paris 13e, dès 14h. Comment s'en sortir? Si cette question vous interpelle, je vous propose d'aller assister le 20 octobre au dîner-débat organisé par le think tank Franc-maçonnerie et Société. C'est autour de ce thème que dialogueront Daniel Keller et Jean-François Kahn. Alors on ne présente plus Jean-François Kahn, journaliste et éditorialiste fondateur de l'hebdomadaire Marianne. Daniel Keller, l'actuel grand maître du Grand Orient de France, est quant à lui très impliqué sur les questions sociétales, notamment lorsqu'il s'agit de la reconquête des valeurs démocratiques. Un débat qui s'annonce donc passionnant. Pour participer, rendez-vous aux Arts et Sciences Réunis, 161 avenue Jean Jaurès, Paris 19e, à partir de 20h. Enfin, savez-vous que bon nombre de rituels maçonniques trouvent leur origine dans des légendes chevaleresques issues du Moyen-Âge, à tel point que la plupart des régimes maçonniques en sont venus à s'organiser sur le modèle de la chevalerie, voire à se transformer en ordre de chevalerie. C'est ce que je vous propose de découvrir dans le prochain Franc-maçonnerie Magazine en kiosque le 16 octobre. À très bientôt Jean-Laurent.
Merci beaucoup Hélène.
mes chères auditrices et auditeurs, vous pouvez évidemment vous procurer le dernier numéro de Franc-Maçonnerie Magazine dans les kiosques ou sur Internet. Voilà. Revenons à nos communards et on va essayer de faire, j'allais dire, une petite galerie de portraits rapide. Je vais prendre quelques-uns parce que je les connais un peu mieux, peut-être les maçons écossais. André dira ce qu'il veut en, ce qu'il veut en dire rapidement et on rajoutera d'autres. on a parlé, très rapidement de Jules Vallès, mais on a déjà parlé dans d'autres émissions, hein, de la justice en 33. Mais par exemple, le vétéran de la commune, Charles Bellet, par exemple, qui était à la Sandro, c'est vraiment le plus vieux. Mesureur, lui, est resté visiblement dans sa cahute de la garde nationale. Il a rien fait pendant la commune. Il était plus récemment conciliateur. Enfin, oui. Il était conciliateur, mesureur, et il est resté dans son casernement, j'allais dire. Il a, voilà. Et quand même, il faut tout, on en parlera tout à l'heure avec Potier. Gustave Lefrançais, quand même, à qui Eugène Potier dédie
l'international.
La justice 133 et également ou le chimiste François Raspail, hein, le fils on le connaît, l'alliance fraternelle quand même, tu l'as cité tout à l'heure, Proto, hein, c'était aussi le docteur Goupil qui était membre de l'alliance fraternelle, hein, l'avocat, et Henri Granger qui était blanquiste aussi, qui était journaliste. Alors il y en a plein, hein, donc j'ai allé très vite. Gabriel Ranvier, de la ligne droite dont on a parlé tout à l'heure, qui était le commandant de la garde nationale pendant la commune. Tu m'interromps quand tu veux, hein, toi aussi Christophe. Si...
On va gêner, tu vois.
Le Ranvier, ouais. Comme caractéristique avec Bellet, mais Bellet est un vieux monsieur.
Oui, hein, très vieux, c'est
le vétéran. Il a été initié en 1815.
Hein. Ah oui, oui, oui.
Oui, Ranvier, il a été maçon très tôt.
Ouais.
Parce que la plupart des maçons communards, ils ont été reçus
Bellet
maçons.
Bellet est né en 1795.
Ouais, ouais.
Vas-y, vas-y. Pardon.
Ils ont les maçons communards, généralement, peu d'années de maçonnerie. Hein.
Mm-hmm.
Ils
oui,
ont
oui.
3, 4, 5
ouais,
ans.
65,
un
c'est
an,
une grosse
et,
année.
Et Benoît Malon, c'est ouais. pendant le siège.
Ouais. Donc,
ouais.
Ranvier, c'est vrai, c'est nu. Thierry Fogg, dont on a parlé, la Jérusalem écossaise, et qui va créer le libre examen. Qui est une loge qu'on connaît, mais surtout c'est celle aussi où Potier aurait dû revenir en maçonnerie en libre examen. Il est mort 6 jours avant. Bon, on en reparlera avec Potier tout à l'heure. Les Trinitaires, on en a beaucoup parlé. Gustave et son frère
Élie
May. Et surtout, c'est une loge qui est à la fois des gens très révolutionnaires et qui sera aussi la loge du souverain grand commandeur du suprême, Louis Proal, qui est dans la même loge. Donc c'est des histoires passionnantes, mais Christophe Bitot connaît tout ça bien mieux que moi, donc s'il veut m'interrompre, il m'interrompt.
Oui, simplement pour dire que Élie May, on a dit que beaucoup de francs-maçons communards avaient été francs-maçons très peu de temps avant. Il a été ici en 1864, Élie May, donc ça faisait un petit moment déjà qu'il était franc-maçon, presque 10 ans.
Ouais.
Et effectivement, les Trinitaires, avec Gustave et Élie May, ont eu un rôle important dans la commune. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Je pense à l'Avenir 168, il y a Chassin, hein, Charles-Louis Chassin, qui est l'historien des guerres de Vendée. Mais dans le sens, lui était pour la guerre de Vendée. c'est pas un copain du vicomte, c'est pas un chouan.
Non,
hein.
Non, non.
Dans la même loge, d'ailleurs, il y a Ernest Hamel, qui lui a comme particularité d'être le biographe de Robespierre. Donc, il y en avait l'historien des guerres de Vendée, le biographe de Robespierre. Le réveil maçonnique, à Boulogne, avec quand même Emmanuel Arago et Jules Simon, quand même, qui faisaient partie de cette loge. Enfin, voilà. Donc, on voit quand même, Potier, on en parlera tout à l'heure à la fin de l'émission, donc je le mets un petit peu à part, et puis il sera initié après. Mais disons, pour les francs-maçons, parce qu'il faut aussi penser que d'autres seront initiés après. Le temps des cerises, ça sera après. Louise Michel, c'est après. Potier, c'est après. Enfin, voilà. Mais d'autres personnalités un peu intéressantes.
Du côté du rite écossais.
Oui, rite écossais. Ou
de l'autre côté.
Oui, enfin, non, pas
oh,
tout.
Y a, ouais. De toute façon, on passe très facilement d'une obédience à l'autre.
Ouais.
Hein. À ce moment-là, ça ne pose pas de problème.
Ça va changer.
On n'est pas content d'un grand maître. Hop, on va en face.
Ouais.
Hein. Et souvent, on ajoute que, au nom de la loge, le mot « régénéré
».
Pour dire que, mais enfin... voilà. Alors, Thierry Fogg est un personnage intéressant parce que... c'est un tailleur, professeur de coupe.
Quoi, enfin.
Et alors, c'est un homme qui a suivi Richegardon, c'est-à-dire, c'est un ésotériste, dans ses débuts maçonniques. Et il est resté extrêmement croyant. Ce qui est d'ailleurs le cas, de, on peut dire, de la bonne partie quand même des maçons communards. Oui. Hein, tous ne sont pas athées. Hein.
Non, mais ça n'empêchait pas d'être spiritualiste, d'être croyant et de vouloir s'engager. Croyant, hein,
mais et socialisme, d'un socialisme très, j'allais dire, très, très rêveur. Quoi, hein, voilà. Et il a joué un rôle important, déjà pendant le siège et surtout pendant la Commune de Paris, parce que c'est son éloquence qui a contribué à faire basculer la... au moment du Châtelet, quand il y a eu la grande manifestation où, qui était normalement contrôlée par ceux qui étaient favorables.
C'était Floquet qui était orateur et qui était là pour charger de maintenir le truc. Floquet de la justice 133, la logique écossaise dont on a parlé.
Il était chargé, ainsi que d'autres, d'empêcher que,
ça déborde.
Ça passe, autrement dit, que la maçonnerie passe du côté de la commune. Quoi, voilà, tout simplement. Et l'éloquence de Thierry Foch a joué.
Et c'est à Thierry Foch que Vallès remet la fameuse écharpe rouge. Quand Vallès dit le vénérable, c'était Thierry Foch.
Alors, la loge de libre examen, c'est une loge théiste au départ, en 1870. Ouais. C'est Henri Carle qui l'a fondée, qui voulait faire une sorte de religion des religions. Comme on sait beaucoup à l'époque, on pouvait fusionner toutes les religions pour faire un nouveau culte.
Le syncrétisme.
Et donc, Thierry Foch était très bien là.
Oui.
Et après le retour des communards, c'est une loge qui a accueilli un certain nombre d'anciens de la commune.
D'autres personnalités, je sais pas, du Géo ou de. T'en as évoqué quelques-uns.
Oui, mais... on a évoqué tout à l'heure Charles Amouroux. Ouais. Charles Amouroux, quand il a été. Qui est passé sous le bandeau, il y avait une mouche de la police qui était là et qui a fait un rapport disant qu'il avait dit qu'il ferait son devoir sur les barricades un fusil à la main. Alors ça a dû monter au niveau du grand maître et au niveau du ministère de l'Intérieur. Alors il y a eu Assy qui était lui aussi un ouvrier qui est à la rue
de Assy, je
précise. De Assy, oui, qui était celui des grèves du Creusot. Et alors il y a quelques loges qui étaient très très où il y a beaucoup de communards. La plus importante, c'est les Amis de la Tolérance, qui était donc la loge qui accueillit Amouroux et qui venait d'ailleurs du Suprême Conseil. C'était disputé parce qu'ils trouvaient que
en 1868.
En 68, ils trouvaient que ils n'étaient pas assez assez révolutionnaires et que du gros côté. Alors on va voir en face quoi.
Mais à Marseille aussi, la loge qui va initier Gambetta est une loge issue de frères partis en 68, qui vont de frères écossais qui vont au sein, enfin en fait au sein du Géo, ceux qui font les trublions d'extrême gauche, c'est ceux qui se sont barrés du Suprême Conseil, c'est les frères écossais.
Oui, souvent.
Ça fait beaucoup, Jean-Laurent.
Quoi ?
Ça fait beaucoup.
Non, mais c'est vrai.
Il y a l'union parfaite de la persévérance. Il y a tout, également, à peu près. Donc, j'avais noté 4-5 loges de côté de chaque obédience, les deux obédiences, où il y avait vraiment un pourcentage très élevé de gens qui ont participé à la commune.
Ouais,
encore que souvent on ne sache pas le nombre de personnes qui ont de maçons qui ont été tués pendant la Semaine sanglante, mais le fait d'avoir porté un cordon maçonnique sur les barricades avec son fusil ou simplement d'avoir participé avec son décor à la manifestation du 29 avril, c'était prendre un risque énorme. Il y a eu beaucoup
après,
de dénonciations.
De dénonciations.
Ah, beaucoup de dénonciations.
Est-ce que ce que tu dis dans ton livre c'est qu'en effet, il y a eu beaucoup. Tu parlais des cotisations qui étaient un peu élevées, un peu plus au Grand Orient d'ailleurs que tu l'as rappelé. Hein,
oui.
Et qu'il y a dans cette manifestation-là, visiblement, des anciens francs-maçons qui n'étaient plus, en tout cas, qui étaient plus cotisants, on va dire, et qui ont revêtu leurs anciens décors pour. En termes de solidarité avec les maçons qui, j'allais dire, qui cotisaient toujours.
Oui, qui étaient en activité.
Qui étaient en activité. Ouais. D'accord. Eh bien, nous allons tout de suite passer la parole à Marie-Françoise Blanchet, qui est avec nous par téléphone, hein, ce que j'ai dit au début de l'émission. Elle n'est pas physiquement présente avec nous, mais elle a tenu à être là. Et donc, tout de suite, nous passons la parole à Marie-Françoise Blanchet.
Bonsoir Jean-Laurent.
Bonsoir Marie-Françoise, merci d'être là.
Tous mes chers amis de Radio DTC.
Merci. Nous t'écoutons tous.
C'est pas possible d'être avec vous physiquement ce soir, mais j'y suis. Alors vous vous doutez bien que sur ce sujet, comme sur tous les autres, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe du côté des femmes.
Oui.
Donc, à peine plus de 2 mois, au printemps 1871, du 18 mars au 28 mai, qui va s'achever par la semaine sanglante, ce sont 2 mois écrits en majuscules dans l'histoire de l'émancipation des femmes françaises. Le premier mouvement féminin, l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés, est créé par Nathalie Lemel et Elisabeth Dmitrieff. Et cette union réclame le droit au travail et à l'égalité des salaires, obtient la reconnaissance de l'union libre et que soit versée une pension aux veuves des fédérés, qu'elles soient mariées ou non, ainsi qu'à leurs enfants, légitimes ou naturels. Zola écrit « Les femmes à Paris sont fort turbulentes. Dans presque tous les ménages d'ouvriers, le soir, la femme dit tout haut son opinion politique et souvent l'impose à son mari. On lit le journal en commun et généralement, on est très dur pour le pouvoir, quel qu'il soit. » Cet esprit frondeur qui fait de Paris une ville d'opposition, quand même, une ville révolutionnaire par excellence. Dans aucune ville, je n'ai entendu le sexe faible trancher si impérieusement les questions gouvernementales. Je suis certaine que rien n'a changé. Les femmes participent aux barricades, bien sûr. Et le 3 avril 1871, 500 femmes partent de la Concorde pour marcher vers Versailles. Au pont de Grenelle, elles sont rejointes par 700 autres. Les femmes sont partout, dans les comités de quartier, elles pétitionnent pour faire remplacer les religieuses dans les hôpitaux, les prisons, par des mères de famille qui, disent-elles, font mieux leur devoir. Elles obtiennent leur place aux ambulances, y compris dans les postes avancés des combats, et elles arrachent la fermeture des maisons de tolérance. La commune bannit la prostitution considérée comme, je cite, une forme de l'exploitation commerciale de créatures humaines par d'autres créatures humaines. Voilà. On en est toujours au même point, n'est-ce pas? Nathalie
vrai.
Lemel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, crée avec Eugène Varlin la Marmite, une cantine ouvrière et coopérative. Et puis là, je vais citer Claudine Rey. D'autres femmes ont choisi, comme Louise Michel, l'engagement militaire, Victorine Rouchy au bataillon des Turcos, Léontine Suétens, cantinière au 135e bataillon, blessée 2 fois, Eulalie Papavoine, combattante à la plaine de Vanves, Marguerite Lachaise, à la plaine de Châtillon, Hortense David, Louise Michel qui se trouve à la barricade de la chaussée Clignancourt avec Marguerite Diblanc, Adèle Chignon qui était une combattante de 1848 et sur la barricade du Panthéon. 50 sont sous la direction de Nathalie Lemel, place Pigalle. Le correspondant du Times, en avril 1871, écrivait « Si la nation française ne se composait que de femmes, quelle terrible nation ce serait !» Benoît Malon et Louise Michel avancent le chiffre de 10 000 femmes qui combattirent jusqu'à la semaine sanglante. Jusqu'au dernier jour, elles se battent. Et la répression sera terrible pour elles. Elles sont, pour un grand nombre, fusillées sur les barricades même. Plus de 1 000 furent arrêtées et comparirent devant le 4e conseil de guerre. Alors, on les a humiliées, on les a traitées de tous les noms, on les a souvent traitées de prostituées. Les Versaillais les ont affublées du nom de pétroleuses. C'était des femmes d'un grand courage. Et lors de leur procès, à l'instar de Louise Michel, elles ont revendiqué tous leurs actes. 29 ont été condamnées aux travaux forcés, 20 à la déportation en enceinte fortifiée et 16 à la déportation simple. À bord de la Virginie, elles sont 19 communardes enfermées dans des cages et le voyage vers les bagnes de Nouvelle-Calédonie dure 120 jours. Pour la plupart, leurs noms sont tombés dans l'oubli. Qui se souvient de Nathalie Lemel, Elisabeth Dmitrieff, Aline Jacquier, Adélaïde Valentin, Noémie Colville, Sophie Gray, Joséphine Prat, Adèle Covin, Blanche Lefebvre, Marceline Leloup, André Léo, Maria de Rem tout de même, Adèle Esquiros, Paul Mingue, Julie Daubier, Thérèse Collin, Aglaé Jarry et bien sûr Louise Michel. Sur Louise Michel, je vous recommande l'excellent ouvrage collectif dirigé par Denise Oberlin et Nicole Foussat de la Grande Loge Féminine de France, paru dans la collection Voix d'Initiés. Et puis, bien sûr, l'excellent article aussi du non moins excellent Jean-Laurent Turbet sur son blog au sujet de Louise Michel. Louise Michel choisira de devenir franc-maçonne à la fin de sa vie, regrettant de ne pas avoir pu le devenir plus tôt. Elle sera initiée par Madeleine Pelletier à la Grande Loge symbolique écossaise. Et pour conclure, j'aimerais vous lire l'hommage d'Arthur Rimbaud à Louise Michel.
C'est un très bel hommage.
Et je ne suis pas comédienne, alors vous pardonnerez sans doute mes hésitations. Ballade en l'honneur de Louise Michel. Madame et Pauline Roland, Charlotte, Théroigne, Lucille, presque Jeanne d'Arc, étoilant le front de la foule imbécile, nom des cieux, cœur divin qu'exile, cette espèce de moins que rien, France bourgeoise au dos facile, Louise Michel est très bien. Elle aime le pauvre, âpre et franc ou timide, elle est à faucille dans le blé mûr pour le pain blanc du pauvre, et la Sainte Cécile est la muse rauque et gracile du pauvre et son ange gardien. À ce simple, à cet imbécile, Louise Michel est très bien. Gouvernement et mal-talent, mégatérium ou bacille, soldat brut, Robin insolent, ou quelque compromis fragile, tout cela son courroux chrétien l'écrase d'un mépris agile. Louise Michel est très bien. Envoi. Citoyenne, votre évangile, on meurt pour, c'est l'honneur, et bien loin des taxiles et des basiles, Louise Michel est très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup Marie-Françoise, quel bel hommage aux femmes. Aux femmes de la commune. Et avant.
On t'embrasse, Marie-Françoise.
Tout le monde t'embrasse, Marie-Françoise.
Bisous, Marie-Françoise.
Et puisque nous allons parler un peu encore, parce que Christophe voudrait rajouter quelques mots sur deux ou trois femmes qui sont des anarchistes que Marie-Françoise a citées tout à l'heure, eh ben, on va écouter Ni Dieu ni Maître par Léo Ferré. Après, on parlera un peu d'anarchisme, mais comme ça, on sera dans le bain. Voilà. Ni Dieu ni Maître.
Et le remords des coups de jatte, avec la peur du temps compte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu. Et cette rose sans pétale qui tombe froide sur la table, cet avocat à la serviette, ce taupe qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'a ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu,
ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître?
Eh bien, nous voici revenus avec nos communards, nos anarchistes et nos francs-maçons. Vous êtes toujours sur Radio DTC avec André Combes et Christophe Bitteau. Et nous poursuivons après la chronique de Marie-Françoise Blanchet sur un certain nombre de portraits intéressants. Et moi, j'aime bien quand on donne les noms, quand on rappelle, quand on essaie de visualiser. Alors, Thierry Fox vieillard à la longue barbe blanche ou d'autres. Enfin, voilà. Qu'on essaie de faire revivre aujourd'hui ces figures du passé. Et Christophe voulait rajouter un mot sur deux femmes anarchistes qu'a cité Marie-Françoise Blanchet tout à l'heure.
Oui, on parle de deux sujets qui me passionnent quand même, les femmes et l'anarchisme. Donc, forcément. Il faut que je prenne la parole. Beaucoup de militantes de la commune étaient ou sont
devenues Christophe Bitteau, pardon, j'ai oublié de dire, parce que les auditeurs n'entendent pas, enfin ne voient pas.
D'accord. Donc, étaient ou déjà ou sont devenues anarchistes. Alors, on a parlé de deux noms, Nathalie Lebel et Louise Michel, qui étaient toutes les deux anarchistes. Alors, Louise Michel, c'est quand même un personnage éminemment sympathique. C'est la Vierge Rouge, comme on l'a appelée, et tout le monde la connaît. Mais je pense qu'elle mérite qu'on revienne sur son parcours très très brièvement. Louise Michel, elle n'a pas été simplement cantonnée au rôle de garde-malade pendant la Commune. Elle a effectivement combattu les armes à la main sur les barricades.
Du côté de Clamart.
Quand elle a été arrêtée, d'ailleurs de façon très lâche par les Versaillais, puisqu'ils ont arrêté sa mère. Pour que Louise Michel se rende pour sauver la vie de sa mère. Elle a, devant les juges, réclamé, comme elle a dit, sa part de plomb. Elle a été donc ensuite
condamnée à la déportation
en même temps que Rochefort. Elle a fait le voyage, si on peut parler de voyage, avec Rochefort jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et là, tout à l'heure, on a parlé du rôle de certains Français et certains communards au milieu de la Nouvelle-Calédonie, au milieu des Kanaks, qui n'ont pas toujours été particulièrement un rôle glorieux, pas forcément par racisme, mais par effectivement la République qui amène la civilisation. Il faut savoir que Louise Michel a eu un rôle tout à fait différent. Louise Michel, qui était institutrice, a instruit les Kanaks, a fait la classe aux Kanaks, et pendant la répression, elle s'est battue avec les Kanaks contre les communards qui s'étaient rangés du côté effectivement de l'ordre. Elle a essayé d'ailleurs de faire comprendre à ses anciens co-détenus que son rôle. Alors,
il faut rappeler, tu as cité par exemple, elle est déportée avec Rochefort.
Ouais.
Rochefort a commencé comme communard. Quand il est revenu, Rochefort a été boulangiste,
oui.
Rochefort a été anti-Dreyfusard, antisémite et a fini à l'extrême droite, par exemple. C'était
voilà.
un des multiples...
Alors que Louise Michel a été fidèle à son
idéal,
elle a toujours eu un comportement qui était assez extraordinaire. Au moment où quelqu'un a attenté à ses jours d'un coup de revolver, elle est allée quand même témoigner à son jugement pour réclamer qu'il soit relaxé. C'est quand même assez extraordinaire. Il suffisait qu'elle ait deux francs six sous, et ce qui était très rare, pour qu'elle le donne à plus pauvre qu'elle. Et il y avait du mal déjà à trouver quelqu'un de plus pauvre qu'elle, mais quand même, elle y arrivait, elle le donnait. C'était quelqu'un d'assez extraordinaire qui, d'ailleurs, a toujours su éveiller la sympathie même de ses adversaires politiques. On sait, par exemple, que Clémenceau l'a toujours soutenue, même financièrement, justement. Financièrement jusqu'au bout. Victor Hugo, également. Victor Hugo a toujours été un grand admirateur de Louise Michel. Et donc, elle a fini, effectivement, initiée au droit humain, ce qui allait devenir le droit humain.
Non, c'est dans une grande loge, la grande loge symbolique écossaise.
Oui, mais qui après, voilà. Oui.
Non, c'était des grands ennemis du droit humain, oui. Parce que le droit humain, Georges Martin, alors c'était Georges Martin, enfin pour faire très court, c'est la maçonnerie de la famille. On n'est pas catho, mais on est quand même des gens bien, etc.
D'accord.
Et les filles de la, c'est pour ça qu'après il y a eu les loges d'adoption de la grande loge de France. C'est parce que les Madeleine Pelletier, les Louise Michel, enfin toutes ces filles-là qui étaient initiées à la grande loge symbolique écossaise mixte et maintenue, évidemment le droit humain qui prônait une maçonnerie laïque mais une maçonnerie morale, j'allais dire, voir arriver ces filles qui étaient des anciennes communards, des anarchistes, des lesbiennes, des suffragettes, etc. Georges Martin, le pauvre, il a dit va des rétro satanas jamais au droit humain. Et donc ils ont créé les loges d'adoption de la grande loge de la grande loge
au
de PEC, France,
je crois. Hein.
Alors Maria de Rheims a été initiée par la loge
les
libres penseurs du PEC, qui était la première loge créée par la grande loge symbolique écossaise. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit truc. Mais c'est pas grave, c'est le courant écossais, mais une autre branche du courant écossais, on va dire.
Et donc elle a expliqué qu'elle aurait demandé son entrée en maçonnerie si elle avait su plus tôt que les femmes pouvaient être initiées. C'est effectivement ce qu'elle a dit. Donc voilà, ce que je constate quand même, c'est que les femmes pendant la Commune se sont beaucoup trouvées ensuite dans les camps anarchistes. Ouais. Faut croire qu'elle se méfie plus du pouvoir que certains hommes.
ça c'est sûr.
Et c'est tout à leur honneur.
Et ben, ouais. On va parler parce que comment dire, André Combre a dit tout à l'heure qu'il y avait certainement une dichotomie entre l'action des francs-maçons parisiens et leurs obédiences respectives. Je me permets, avant qu'André réagisse, de donner les textes d'alors. N'y voyez aucun rapprochement avec les obédiences aujourd'hui. C'est le Grand Orient de France.
On est dans l'histoire.
Voilà, d'ailleurs, n'est pas le Grand Orient de France d'aujourd'hui, la Grande Loge de fin d'époque. Bref, peu importe. La seule appréciation du Suprême Conseil sur la Commune que j'ai trouvée, mais André en connaît peut-être d'autres, c'est simplement l'orateur du Suprême Conseil, Malapert, le seul qui était dans le coin, qui, voyant les francs-maçons s'engager, a dit, dans une lettre qui était adressée aux journaux parisiens, que le rite écossais ne pouvait être engagé par toute résolution arrêtée en dehors de la Grande Loge centrale. Point à la ligne. C'est tout ce qu'on a comme réaction du Suprême Conseil. Ils en pensaient peut-être pas moins, mais en tous les cas, comme expression, c'est la seule qu'on ait. Côté du Grand Orient de France, au lendemain de la semaine sanglante, pour nos auditeurs, on rappelle, la semaine sanglante, c'est du 21 au 28 mai 1871 qui se termine par le passage par les armes au mur des fédérés le long du Père de la Chaise, pour faire court. Donc le 29, il y a une circulaire du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, donc le lendemain...
Donc c'est une lettre personnelle du grand maître.
Pardon, une lettre personnelle.
C'est tout à fait différent.
D'accord. Alors la lettre, enfin pardon, parce que j'avais aussi un truc de Babo Larivière plus tard, en août, mais il écrit encore, qui dit qu'il condamne absolument, je cite le texte, condamne absolument les manifestations auxquelles s'est livré ce groupe de francs-maçons, ou soi-disant-elle, recrutés pour la plupart, on ne sait où, et dont la majeure partie, nous sommes heureux de le constater, n'appartenait pas à l'obédience du Grand Orient. Ça, c'est une petite amabilité pour les frères écossais. On a vu qu'ils étaient nombreux dans les rangs des communards. Et ce même Babo Larivière publie, là par contre, une circulaire aux loges du Grand Orient, le 1er août, donc quelques temps après, dans le bulletin. Alors ça, c'est dans le bulletin officiel du Grand Orient, où il qualifie le mouvement communard de criminelle sédition qui a épouvanté l'univers en couvrant Paris de sang et de ruines, et précise Babo Larivière qu'il n'y a aucune solidarité possible entre ces doctrines, les doctrines du Grand Orient, entre ces doctrines et celles de la Commune, et que si quelques hommes indignes du nom de maçons ont pu tenter de transformer notre bannière pacifique en drapeau de guerre civile, le Grand Orient les répudie comme ayant manqué à leurs devoirs les plus sacrés.
Oui, alors là, il s'agit effectivement...
Alors, par contre, Babo Larivière, c'est pas comme
Magnan et Mélinet, qui étaient des purs produits de l'Empire, il est nommé sous l'Empire, mais il est quand même nommé préfet par la République après.
Oui, non, il est député, il a été député républicain. Oui. Et ensuite, il a été élu en 70 grands maîtres. Oui. Par la province contre Paris, et avec la promesse qu'il ferait disparaître le titre de grand maître qui sentait un petit peu trop Murat ou Magnan.
Voilà. Alors, Babeau c'est pour ça que je voulais faire la distinction entre les deux précédents et Babeau Larivière. Voilà.
Babeau Larivière est un ami de Thiers. Il appartient à ce qu'on a pour appeler le centre gauche devenant le centre qui va devenir la droite en cette période-là. Oui. C'est le cas également de Jeanne Pelletan, d'Adolphe Crémieux. Mmh. Donc voilà. Simplement, comme il est en position de responsabilité à la tête du Grand Orient, il envoie cela. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il le pense.
Oui.
Évidemment. Et la seconde raison, c'est une raison politique. C'est d'éviter qu'il y ait une répression qui touche les maçons et couvrir le Grand Orient de l'accusation portée déjà par toute la presse légitimiste d'être complice ou responsable des exécutions d'otages et des incendies criminels dans Paris. Voilà. Et alors, c'est un moment aussi où l'opinion française, dans son immense majorité, est devenue anti-communarde, violemment anti-communarde, à cause justement de ce qui s'était passé à Paris. Il voilà.
faut dire alors, des communards francs-maçons comme Le Français, par exemple, l'aide pas beaucoup, parce que dès 1871, il dit notamment sur l'incendie des Tuileries, en disant que oui, c'est un symbole de la monarchie, qu'ils ont bien fait de le brûler, et puis que s'ils avaient à le refaire, ils le referaient encore.
D'autant plus que certains incendies sont dus au bombardement versaillais.
Ben oui,
tout n'est pas dû aux communards. Et il a voulu faire sanctionner les maçons ayant participé à la Commune, j'allais dire de façon importante, au moment de l'Assemblée Générale, quand le convent du Grand Orient de France qui s'est tenu en 71, et là, il a échoué. Il a échoué, puis notamment, c'est le pasteur Desmond qui voulait que l'on vienne en aide aux familles des détenus et autres. Oui. Hein. Finalement, le Grand Orient n'a rien fait. Et simplement, il a demandé, pour ceux qui voulaient agir en faveur des familles des communards, qu'ils le fassent non pas en tant que loge, mais qu'ils le fassent à titre personnel. Voilà. Et il n'a pas été suivi, puisque beaucoup de loges...
On fait. Et c'est vrai que la franc-maçonnerie, que sur l'obédience, on s'en fiche, a beaucoup œuvré, comme tu le rappelais tout à l'heure, pour aboutir. Mais 10 ans après, il faut se rappeler aussi qu'il y a le parti de l'ordre moral, il y a Mac Mahon. Enfin, c'est-à-dire, c'est une période compliquée après. Hein, les années qui suivent, c'est pas excessivement simple. Mais arriveront en 1880 à l'amnistie des communards. Je vais parler d'un certain nombre de livres. Et après, si vous le voulez bien, on reprend sur. Nos communards, on les a vus, ils sont pour beaucoup soit déportés en Nouvelle-Calédonie, soit en exil. Et ben André nous parlera un peu de ces communards en exil, qu'est-ce qu'ils font et comment on maçonne en exil en Angleterre, aux États-Unis. Et peut-être avec Christophe et André, après, on parlera d'un qui va maçonner à New York du côté des égalitaires avec Elie May, qui est Eugène Potier, le créateur de l'International. Juste, je vais essayer d'être rapide, parce que comme ça, on parlera un peu plus des francs-maçons en exil. Alors, les deux livres, il y en a beaucoup, mais les deux livres qui nous ont servi principalement pour cette émission sont évidemment le livre d'André Combes, Commune de Paris, mars-mai 1871, la franc-maçonnerie déchirée, qu'on peut trouver aux éditions Dervy, qui a été publié il y a quelques mois. Enfin, c'est un livre récent.
Ouais.
L'unique et l'initié, franc-maçonnerie et anarchisme de Christophe Biteau, donc aux éditions Théolib, c'était fin 2013, je crois, enfin c'est entre 8 mois, un an.
C'était janvier 2013.
Ah, janvier,
2014, pardon.
Janvier 2014, pardon, j'avais vu, ça fait une petite année. Deux ou trois autres livres qui me plaisent bien. Alors, bien entendu, j'en ai déjà parlé, mais soit on se répète, soit on se contredit, donc je me répète. Madame Iramabi, la concierge de la rue des Trois Frères, qui est un roman, un excellent roman, de Philippe Benamou, paru au mois de septembre, là, il y a vraiment pas longtemps, aux éditions Dervy.
Je voulais aussi vous parler des curiosités maçonniques, énigmes, intrigues, secrets dans les archives des loges, de Pierre Mollier, qui est le responsable du musée des archives de la bibliothèque du Grand Orient de France. Je voulais vous parler aussi de l'art de la mémoire et la formation du symbolisme maçonnique de Charles Jameux chez Dervy dans la petite bibliothèque de la franc-maçonnerie, du deuxième tome du volumineux L'Europe sous l'acacia d'Yves Hivert-Messéca, qui est au Grand Orient de France aussi, publié aux éditions Dervy. Et enfin, le deuxième tome qui est paru il y a un moment, on attend vraiment le troisième avec impatience, de l'Écosse à l'écossisme, la grande étude, là c'est la floraison des grades écossais, la grande étude de Louis Trébuchet sur les origines du rite écossais ancien accepté, paru aux éditions Ubique cette année. Alors, j'ai fait plus court que je pensais, et c'est très bien. Ah pardon, je voulais dire, mais je ne sais plus où ils sont, si je voulais... parler d'une nouvelle collection qui s'appelle Pollen maçonnique. Je n'ai pas encore tout lu. Je vous dirai ça plus tard. Les quatre premiers volumes sont parus. Alors c'est une petite collection de poches, mais qui est plutôt bien faite. Le premier s'appelle La chambre du milieu de Roger Daché. Celui-là, je l'ai lu, il est bien. Ensuite, le maillet et le ciseau, juste le juste, penser autrement, un collectif de la GLFF, et la règle et le levier. Toujours dans une collection qui existe, elle, depuis un moment, mais qui cartonne, comme on dit, qui s'appelle la collection qui pose des questions chez Dervy, c'est un petit format, mais qui est bien fait, et qui s'appelle « Quelle mission pour le maître franc-maçon ?» point d'interrogation, parce que tous les titres de cette collection sont avec un point d'interrogation, de Jean-Marc Pétillot, que nous
l'ancien grand maître de la GLTSO.
Oui, que vous connaissez bien, qui est l'ancien grand maître de la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra, la GLTSO. Alors, revenons, après cette chronique de livres, à nos communards en exil. Alors, ceux qui ont eu la chance de pouvoir se carapater, principalement en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à vivre et à remaçonner en terre étrangère, André Combes?
Alors tout d'abord, il faut dire que des complicités maçonniques ont permis à un certain nombre de communards de passer à l'étranger. La fraternité a joué, de ce point de vue-là, d'une façon tout à fait efficace. Mmh. Alors il y avait à Londres, où le gros paquet des maçons communards sont à Londres, et il y avait à Londres déjà... sous le Second Empire, une loge qui s'appelait les Philadelphes et qui avait joué un rôle important.
Les exilés du coup d'État de 1851.
Oh, également.
Et d'avant, 1848.
Et même des juin 48.
Ouais. Oui.
Et donc, c'était des vétérans, si on veut.
Et certains, ils sont retournés, d'ailleurs.
Oui, le vénérable, il avait fait le coup de force en 51 au moment du coup d'État, il est à nouveau, on le trouve sur les barricades dans la commune, c'est un cordonnier qui a réussi à repasser donc en Angleterre. Alors dans cette loge des Philadelphes, elle n'est reconnue par aucune obédience, c'est-à-dire que ce sont des loges indépendantes, et d'une part, d'autre part, elles restent en contact, notamment avec les radicaux parisiens, de façon à pouvoir aller en direction de l'amnistie. Et troisième point, elles se disputent entre elles. Les Philadelphes, donc on pourrait dire c'est le bloc central, mais il y a sur la gauche crée une loge qui s'appelle la Fédération, autour d'un certain Landeck, qui elle est littéralement, on peut dire vraiment, un groupe anarchiste proto-anarchiste, si on veut.
On comprend pas trop, parce que les francs-maçons se disputent jamais, normalement.
Et il y a une troisième loge qui s'appelle la Révolution, où était Ranvier.
Oui.
Alors ça correspond également au problème qui se posait au sein de la Première Internationale, et d'autre part au règlement de compte qu'il pouvait y avoir entre les vaincus après la défaite de la Commune. Donc c'est une maçonnerie divisée, mais importante, et qui a joué un rôle, par exemple, elle est venue en aide à la famille du grand maçon polonais Dombrowski, qui a été mort pendant les combats. Et d'ailleurs, il y avait deux loges également polonaises à Londres qui fonctionnaient avec et qui étaient composées en partie tout au moins par des anciens communards comme Wroblewski. Donc c'est une maçonnerie à la fois très vivante, mais très querelleuse, et que l'on connaît simplement par les rapports d'agents infiltrés, hein, anciens communards infiltrés, notamment un certain Matusiewicz qui a donné donc, parce que sinon toutes les archives
ont disparu. On connaît beaucoup de choses par les renégats, hein, donc
oui,
dès 1730, on sait, voilà.
Voilà, alors, donc, c'est une maçonnerie qui était considérée comme importante par les rapports de police. Mmh. Oui. Alors, en Suisse, il y a eu des tentatives de créer une loge, mais ça a échoué. Mmh. Et on le sait également parce qu'il y avait deux anciens élus de la commune qui faisaient des rapports à la police sur ce qui se tentait. Mmh. Il y a eu également, donc, à Venosaire, une loge à Venosaire.
C'était Jean Beau, c'est ça, qui lui aussi
Jean
a fait
Beau,
le voyage.
Un de ses membres de la loge, effectivement. Ouais.
Égalité, humanité.
Oui. Il y en a beaucoup qui sont entrés dans les loges belges, du Grand Orient belgique. Hein. Et puis, il y a eu New York, mais je laisse aux spécialistes. Donc,
Parce que Jean Beau finira aussi au libre examen, parce qu'il était maçon écossais. Et il était parti en Argentine, et c'est pareil, lui, il est revenu, il a été communard, et hop, il est reparti en Argentine, remaçonné là-bas jusqu'en 1880. Ouais. Et il est revenu au libre examen. Ouais. Mais c'est vrai, celui qui a été fait franc-maçon en exil, communard en exil, une des plus grandes figures, c'est évidemment Eugène Potier, celui qui a écrit les paroles de l'Internationale. Sur les, je le précise à l'époque, parce qu'on peut la chanter comme ça, c'est assez rigolo, il a composé l'Internationale sur la musique de la Marseillaise. Donc on peut chanter la Marseillaise, ça marche très bien, parce que c'est fait pour.
Mais La
musique a été faite après, il était mort ou pas loin.
Enfin, il était mort, je crois.
Potier.
C'est les guédistes de Lille qui ont fait la...
Et donc, Christophe, 1875, les égalitaires, New York et Limay.
Alors 1875, effectivement, Élimée va faire un peu la navette entre Londres et New York. Il va avoir quelques soucis d'ailleurs, parce que quand il va partir à Londres, il va partir avec un certain nombre de diamants. Il faut savoir qu'il était joaillier avant d'être journaliste à l'Humanité. Il a été parmi les créateurs d'ailleurs du journal L'Humanité. Il a une vie qui est assez aventurière, hein, d'ailleurs, Élimée. Donc il a eu quelques soucis. Quand il est arrivé en exil, il s'est retrouvé complètement impliqué dans les querelles entre les guédistes, surtout les guédistes et les anciens blanquistes. C'était pas toujours très fraternel. C'était parfois teinté d'antisémitisme, il faut bien le dire.
Et c'est une partie un peu oubliée, les francs-maçons guédistes antisémites.
Et après avoir quitté Londres pour des problèmes de cet ordre, il est allé à New York avec son frère Gustave May. Et ils ont créé une loge sauvage, effectivement, qui était reliée à aucune obédience, qui s'appelait les Égalitaires. Et alors, à cette loge, a frappé à la porte du temple quelqu'un qui a connu ensuite la postérité, c'est effectivement Eugène Potier. Et là, je ne résiste pas à l'envie, parce que je résiste jamais à l'envie en même temps. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire la fin, simplement, parce que c'est assez long, mais la fin de la lettre.
Enfin, tu peux donner le début et la fin.
Ouais. La lettre, alors on va faire le début et la fin. Ouais. C'est donc Eugène Potier qui écrit à Élimée, qui est vénérable maître de cette loge, à New York le 2 décembre 1875, donc ça commence ainsi. Citoyen, je demande à participer aux travaux de la maçonnerie et à être admis dans votre loge. Je sais qu'elle est composée d'un groupe de libres penseurs qui, ayant fait table rase des traditions et ne reconnaissant rien de supérieur à la raison humaine, emploient consciencieusement la leur à la recherche de la vérité et de la justice. Je crois comme vous que le bonheur de l'humanité ne peut avoir d'autre base. La science dégagée de toute entrave dogmatique marche de jour en jour à la découverte des lois de notre nature et prépare ainsi le code social. L'humanité, pour entrer dans sa voie normale, doit se créer à notre propre image, c'est-à-dire devenir comme l'homme, une et multiple, une par l'action, multiple par les organes. Ensuite, il y a toute une partie où il parle de sa vie, où il raconte sa vie, militante, il explique la commune. Et là, il termine ainsi. C'est à Paris, dans les derniers jours de la lutte, quand j'ai vu au milieu des transports d'enthousiasme le spectacle grandiose de la maçonnerie adhérant à la commune et plantant ses bannières sur nos murailles éventrées d'obus. C'est alors que je me suis juré d'être un jour un des compagnons de cette phalange laborieuse. Je me présente à son chantier, embauchez-moi. Ah bien, il était lyrique, bien sûr, pour un chansonnier, ça va de soi. ça a forcément enthousiasmé Élimée qui avait une particularité, c'est que même une fois qu'il est revenu en France au Trinitaire, il avait un hobby Élimée. Tout ce qui était plus ou moins à gauche, il l'initiait au Trinitaire. Il aurait du boulot aujourd'hui quand c'est plus ou moins à gauche. Hein. Et donc il a initié notamment Légitimus, qui était député socialiste des Antilles, je crois.
Qui est le grand-père de Pascal Légitimus.
Donc il a initié un peu tout le monde. Camelina, bien sûr. Camelina, jusqu'à ce que Camelina obéissent aux diktats du Parti communiste et quittent la franc-maçonnerie. Mais ça a été, il est resté longtemps au Trinitaire et il était l'ami, il est toujours resté, même quand il a quitté la franc-maçonnerie, l'ami vraiment très très proche d'Élimée. Voilà. Donc Eugène Potier a été initié à ce moment-là. Quand il est retourné en France, je crois que là il est allé au Grand Orient de France, si je ne m'abuse.
Qui ça?
Eugène Potier.
Non, il n'a rien fait. Il est resté. Il était très malade. Il devait rentrer dans la fameuse loge dont a parlé tout à l'heure André Combes, le libre examen qui avait été créé par Thierry Foch. Tout était, j'allais dire, bien engagé pour qu'il y rentre. Et il est, tout était, enfin, les invitations étaient envoyées, tout était fait, etc. Et bah, tout simplement, il est mort 6 jours avant. Et donc, il n'a jamais été réintégré au sein du libre examen. André.
Oui. On peut trouver d'ailleurs la convocation de la loge dans le bulletin hebdomadaire des loges de la région parisienne. Et comme la loge de New York était une loge indépendante, donc sans relation obédientielle, il aurait dû normalement, ce qui était prévu, être initié à nouveau.
Alors, juste pour la petite histoire, quand même, il faut savoir que Eugène Potier n'a pas connu la postérité de sa chanson, puisque d'abord il l'a même pas connu en musique, et il n'a pas connu la postérité qui lui aurait peut-être déplu, parce que Eugène Potier n'était pas marxiste du tout, il était même plutôt de tendance libertaire, on va dire plutôt libertaire qu'anarchiste, mais très influencé par Proudhon, par le mutualisme, etc. Et je pense qu'il aurait été fort marié de voir certains dignitaires et voire militaires défiler au son de l'International le 1er mai à Moscou avec armes et tanks. Je pense que ça l'aurait beaucoup chagriné.
Et nous passons directement, parce que c'est l'heure, aux conclusions de BP.
Alors simplement avant mes conclusions...
Merci beaucoup Christophe et André, je vous remercierai après encore.
Je vais quand même parler d'un colloque qui se tient les 9 et 10 novembre 2014 à Bourges, au Muséum d'Histoire Naturelle sur les nouveaux alchimistes, où aura lieu un débat entre la science et l'alchimie vers une réconciliation. Donc vous pouvez en savoir plus pour tout ce qui concerne les renseignements et les inscriptions sur www.toysondor.wordpress.com. Je le mettrai de toute façon sur la page Facebook. Alors, pour l'orateur. Tâche difficile ce soir pour l'orateur enrhumé, en plus que je suis, que de traiter le sujet de ce soir. Tant nos deux invités, André Combes et Christophe Bitaud, que je remercie pour être venus ce soir, je me répète, nous ont refait vivre en détail cette période troublée de l'histoire de France et de la franc-maçonnerie. Bon, je sais, c'est un peu facile et un peu court. C'est dur de trouver l'aspiration quand on n'est pas chansonnier et qu'on n'a pas le talent de mon voisin Jean-Michel Dardour. Heureusement, cette année, c'est l'année commémorative de notre frère Jean-Philippe Rameau, maçon et grand anarchiste, je pense, le premier même, il va beaucoup m'inspirer. Et oui, Rameau, premier anarcho-maçon revendiqué, mais d'un grand secours ce soir. Rameau, en effet, a été victime de la querelle des anciens et des modernes, donc c'est un peu comme dans la Commune, prémisse de la chute d'un ancien monde et de l'avènement d'un nouveau monde, avec tous les conflits souvent sanglants que cela peut entraîner. Rameau, dans son opéra anarcho-maçonnique, c'est bien connu, Les Boréades, a écrit « Brisons nos chaînes ». Preuve, cela dit, que le complot maçonnique existe, comme nous l'avions déjà dit dans la précédente émission, puisqu'il annonce le programme de la Révolution française, mais véritable Nostradamus de la Commune, voire d'autres révolutions. Laurent Kupferman m'a d'ailleurs confirmé l'existence de ce complot. Tout est symbole, et tout symbole à son opposé, son yin et son yang, son pavé mosaïque, noir et blanc. Avant, Amouroux et son maréchal nous voilà. Nous avons eu Amouroux et son maréchal nous voilà pas, et n'y venez pas. Pauvre maréchal qui, en écrivant un frère musicien, pensait être Magnan Im. Nous sommes en avance, nous, francs-maçons. Comment ne pas voir notre patte dans la catastrophe de Sedan d'hier et le désastre des Sandans d'aujourd'hui? Comment ne pas voir notre main invisible dans l'embrasement déjà des banlieues en 1871 et les problèmes périphériques d'aujourd'hui. Comment ne pas voir que toutes ces révolutions nous réjouissent, finalement, d'après les profanes, et que nous les célébrons vivant un petit communard, ou un petit blanc qui mousse, ou avec la petite Lebel, bien connue pour son coup de fusil. Ce complot, vraiment, c'est notre seconde nature chez nous. Nous sommes les véritables maîtres du temps, d'ailleurs. Dardour ne fait-il pas la publicité de juillet en octobre pour un colloque en novembre? N'arrête-t-il pas le temps en 1990? Nous sommes vraiment partout, puisque même dans l'exil, nous, maçons écossais, de la vieille Calédonie, nous partons en Nouvelle-Calédonie. Cela dit, en bon écossais, nous avons échoué à constituer des loges en exil à Londres. Mais en disant cela, je masque l'essentiel. Je gomme par un sourire jocondien l'essentiel. N'oublions jamais que les murs de nos temples fédérateurs ont été cimentés à une époque, ou à certaines époques, comme dans la commune, par le sang de nos frères, à travers le mur des fédérés. N'oublions jamais que, comme l'a écrit Rimbaud, « jeu est un autre », que ce jeu, ce sont nos frères d'armes, mais aussi toutes ces sœurs d'armes, luttant pour briser leurs chaînes, comme l'a chanté Rameau, « nos sœurs en fraternité ». Alors oui, toutes ces pierres angulaires ont en commun de construire notre édifice. Essayons de trouver le sens de la vie. Magnifique chantier. Alors embauchez-moi, j'ai dit.
Merci beaucoup pour ces conclusions, ces belles conclusions, comme toujours. Merci à André Combes, merci à Christophe Biteau de nous avoir fait revivre cette période. À la fois connue et méconnue, parce qu'on a découvert beaucoup de choses ce soir. Et on va se quitter, non pas avec Jean-Philippe Rameau et ses opéras, n'en déplaise à BP, mais on va se quitter avec les Sex Pistols et Anarchy in the UK. À la prochaine, au mois prochain. Oh,
colonne à la une. Deux colonnes à la une, les francs-maçons sur Radio DTC.